Alors, on va essayer de trouver un passage, un lien entre ces différentes périodes, la période de l'histoire qui était concernée et aujourd'hui. Le système institutionnel dans lequel fonctionne la République française est un système qui a un certain nombre de caractéristiques par rapport à d'autres systèmes et par rapport à d'autres pays. Alors, si vous voulez, dans les 5 premières minutes, on va essayer de vérifier où est-ce qu'on en est tous les uns et les autres avec la méthode classique qui consiste à ne pas se pénaliser quand il apparaît qu'il y a quelque chose qui est mal affermi en termes de connaissances. On est là pour faire le point et puis avancer sur ce domaine. Alors, si vous voulez, ce serait intéressant que dans un premier temps, on essaie de voir quels sont selon vous les principes de base qui dirigent, qui inspire la vie politique française, la vie institutionnelle française. Est-ce qu'il y a un premier principe qui est vraiment fondamental et qui nous relie à la période de la Révolution ? Liberté, égalité, fraternité. Vous avez trouvé ça où ? Dans toutes les communes ? Dans toutes les communes ? On sent qu'il y a une revendication là.
Non, mais je pense que la devise de la France est bâtie sur l'égalité, la fraternité.
La devise de la France ? La devise de la France. Par exemple, en 1940, la devise de la France était liberté, égalité, fraternité.
Non, mais.
Honneur, famille, patrie. Travail, famille, patrie. Honneur, c'était autre chose. Travail, famille, patrie. Ce qui veut dire que, attendez, mais ce qui veut dire qu'à la limite, en fonction des périodes historiques, on peut changer de devise.
Normalement, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. Dans les mairies, c'est ce qui est indiqué dans la majorité des.
C'est la devise de quoi ? De la France ? De l'État français. Aïe, aïe, aïe.
De la Révolution.
On va voir. Non, mais c'est intéressant tout ça, allez-y, parce qu'on va travailler avec ça.
Oui, parce que quand il y a eu l'État français qui a changé aussi de. Enfin, celui de Vichy, quoi.
Voilà, celui de Vichy.
Ou de la Révolution.
Alors, de la Révolution. Est-ce que la devise liberté, égalité, fraternité, c'est la devise issue de la Révolution ?
Non.
C'est la République. Donc on est là. Bon. Il y a donc évidemment plusieurs systèmes. La devise liberté, égalité, fraternité, c'est celle non pas de la France. Qui en a changé, qui n'a pas toujours eu ça. C'est la devise de la République française. Hein ? Premier point, la devise de l'État français. L'État français, la République française, à la suite d'un vote de 80 parlementaires, a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui s'est empressé d'instituer l'État français, par substitution à la République française. Donc, au niveau institutionnel, tout ne vaut pas tout. Un mot ne remplace pas un autre mot. Enfin, un mot ne vaut pas un autre mot. République, État français. Pourtant, toujours la France. Hein. Bon. Mais les choses ont évolué. Et c'est vrai que la définition, la devise liberté, égalité, fraternité n'est pas issue de la Révolution. Alors, elle est issue de quoi ?
De la Deuxième République, c'est
ouais.
ça ?
C'est ça. C'est la Deuxième République qui a collé, qui a fait adopter cette devise républicaine. Hein. Et je reviens à la question de départ, parce qu'on a avancé, mais pas trop. Il y a un principe fondamental qui guide l'organisation des pouvoirs en France, l'organisation des institutions en France.
Les droits de l'homme.
La Constitution.
On a plusieurs corps en France pour le gouvernement.
Oui.
Etc.
C'est quoi
la séparation des corps constitués, ouais. À savoir l'exécutif et le judiciaire.
La séparation des corps constitués.
Oui.
Bah, aïe, 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 ils vont avoir très mal.
C'est vrai.
Les corps constitués.
C'est très vague. Hein.
Pour vous, c'est très vague. Mais non, mais c'est essentiel, pourtant. Alors, vous permettez ?
Oui.
Alors, vous avez parlé de quoi ? Vous avez parlé du législatif, à un moment donné.
Oui.
On va le marquer, hein. Je ne sais pas si ça va nous servir.
Oui.
L'exécutif, parce que. Il y a
le législatif,
il y a l'exécutif en principe.
Il y a le judiciaire.
Et le judiciaire.
Eh ben voilà.
Dans la République française, qu'est-ce qui se passe entre ces trois pouvoirs ?
Ils sont c'est parfait.
Ah, le législatif.
Qui sont alors, le premier grand principe qui régit les institutions de la République française, c'est un principe issu de Montesquieu, donc le siècle des Lumières, la période qu'on aurait dû traiter en détail ce soir, hein, dans l'esprit des lois, qui indique qu'une bonne administration des affaires publiques ne peut se faire du point de vue du citoyen qu'à partir du moment où le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés. Pourquoi ? Par exemple, sous Louis XVI, la période d'avant, vous avez entendu parler de la façon dont fonctionnait la justice. Un exemple.
Les lettres de cachet.
Lettres de cachet. Qu'est-ce que c'était que la lettre de cachet ?
C'était
le roi.
Le sceau du roi.
Le sceau du roi qui faisait quoi ?
La justice.
Oui, qui décidait d'emprisonner, enfin de priver de liberté. Alors, pas les citoyens, ses sujets à l'époque, hein, en tout cas les Français, nos ancêtres. Bon, pourquoi ? Si on essaie de faire la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, toute proportion gardée, n'y voyez pas malice. Le roi, ça serait.
Après Dieu,
les députés que j'ai dit.
Voilà, non, c'est ça, on ne va pas personnaliser, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre. Donc, l'exécutif.
Que des émissions.
Qui se mêle d'une décision de justice. Le roi, via la lettre de cachet, qui est à la fois celui qui incarne la politique, qui la dirige, qui concentre tous les pouvoirs, s'octroie la possibilité de dire la bonne décision de justice. Hein ? Donc l'un des acquis de la Révolution, c'est précisément le principe de séparation des pouvoirs. Alors on parle de ces deux-là, mais celui-ci. Avant la Révolution, c'était quoi qui permettait de prendre des dispositions pour faire fonctionner le pays?
Mais c'était les assemblées parlementaires des.
Alors ça, c'est sur
parlement.
Sur les assemblées.
Mais en province.
Les différents parlements.
On va revenir avant.
Les nobles.
L'équivalent des lois.
Bah, c'était.
Les édits, il n'y avait pas les édits.
L'état religieux. C'est la religion.
La Bible.
Pas la Bible, mais la religion.
On parlait. Ça, c'est un autre acquis un peu plus tard.
C'est l'Église.
Non, vous allez dire un édit.
Un édit, oui.
Qui prenait un édit ? Qui avait la capacité de prendre un édit ? Le roi. C'est-à-dire le pouvoir exécutif. Qui avait des dispositions, des conséquences sur l'ensemble des secteurs de la vie publique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Non, encore une fois, je ne sais pas dans mon tranchement.
C'est le président.
Mais les parlements des régions.
Oui, on va y revenir.
Ils
avaient peu de pouvoir. Ils existaient à titre consultatif.
Ils existaient à titre
peu de pouvoir. Aujourd'hui, dans nos institutions, il y a les trois pouvoirs dont on va voir maintenant, à partir de ce petit tour d'horizon, qui sont effectivement, qui devraient être effectivement séparés. Et que on verra qu'un certain nombre d'exceptions au respect de ce principe de séparation conduisent à un certain nombre d'initiatives, qu'elles y soient issues des partis politiques, des mouvements, de citoyens, etc. Hein ? Mais on a une stricte, théoriquement, séparation du législatif. Alors le législatif, c'est quoi ? Ça, c'est les conséquences.
Il y a les représentants.
Alors, il y a effectivement.
Les représentants.
Il y a quoi ? Les représentants, il y a combien ? Il y a une chambre, deux chambres ?
Enfin,
il y a
deux chambres.
Alors, la première.
L'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale et
le Sénat.
L'Assemblée nationale, il y a combien de. C'est quoi ? C'est les sénateurs à l'Assemblée ?
Non, c'est les députés.
500, combien ?
77.
Très fort. Les sénateurs ?
300 et quelques.
300 et quelques, oui, mais c'est lequel ?
Le nombre de changer.
Oui, exact.
Oui,
Aujourd'hui, dans le renouvellement qui vient. le renouvellement qui vient de s'accomplir, il y avait 343 sénateurs. Ils seront 347 en 2011.
Ils seront promus.
Ça, c'est la loi qui fait évoluer ce genre de choses. Donc, on est dans un système qu'on appelle bicaméral, deux chambres, où il y a... vous avez voulu qu'on en parle, donc on en parle vraiment. Donc, un système de deux chambres qui sont chargées par la Constitution, on verra ce que c'est que la Constitution, d'élaborer les lois. Les anciens édits. Là, il y avait un ou plusieurs personnages. Là, c'est forcément une décision qui est rendue au nom des représentants du Parlement. Hein, ça s'appelle le Parlement. Ils sont donc...
912,
s'ils sont 920. C'est l'équivalent... Alors ça porte un nom.
Et puis il y a des décrets d'application après.
Ça, c'est autre chose.
Attendez.
Là, tout de suite, on est dans le domaine de la loi. Hein ? Pas la théorie. La loi, on verra que c'est pas la seule. Mais bon, pour l'instant, la loi. Lorsque les 577 et les 343 se réunissent, est-ce qu'ils peuvent se réunir
d'abord ? Oui, à Versailles.
Où ? À Versailles. Et ça s'appelle ?
Le Parlement.
Non. C'est le congrès du Parlement. Voilà. D'accord ? En fait, c'est une session du Parlement qui, lorsqu'elle se réunit, prend le nom de congrès.
Oui, d'accord ?
Et qui modifie la Constitution.
Et c'est Versailles.
Et c'est Versailles. Le Congrès se réunit dans des moments très particuliers que la Constitution définit et qui sont effectivement les modifications de la Constitution. Hein ? Pour modifier la Constitution, il faut que le Parlement se réunisse en Congrès à Versailles et se prononce à une majorité des deux tiers. C'est pas la majorité simple. Hein ? Bien. Donc, une majorité des deux tiers, ça peut amener à quelques discussions entre les différentes composantes du Parlement que sont les groupes politiques. Voilà. Alors, on dit, vous avez dit, par rapport à la loi, qui est chargée donc d'un certain nombre de décisions à prendre. On verra dans la Constitution que la loi ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Il y a Ça, c'est le premier, et hein, on peut les classer dans cet ordre-là. Le deuxième pouvoir, qui est l'exécutif. Alors, c'est quoi l'exécutif ?
C'est l'exécution des lois.
Oui. Yes. Ça s'incarne de quelle façon ? Qui compose l'exécutif ?
Le gouvernement.
Le président de la
République. Et son gouvernement ?
Ah oui, le gouvernement.
Disons d'abord le président. Ensuite.
Son premier ministre.
On parle des institutions, on ne parle pas de la pratique. Après, on pourra en parler après. Mais d'abord, fixons-nous les bases, d'accord ? Et ensuite, vous l'avez dit,
le
gouvernement.
Oui.
Premier ministre, institutionnellement, ça s'écrit comme ça, avec un P majuscule et un M minuscule. PM, ça ne veut pas dire Premier ministre, ça veut dire pistolet mitrailleur. Et le Premier ministre, pourquoi avec un P majuscule ? Parce que c'est le premier des ministres. Historiquement, ça veut dire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne noie pas, en quelque sorte, le Premier ministre dans le gouvernement ?
Parce qu'il a des missions différentes.
Parce que c'est le fusible en chef.
Ça, c'est la pratique institutionnelle.
Parce que c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre l'exécution des projets gouvernementaux.
Et d'accord, il est chargé et il en est responsable devant qui ?
Il en est responsable devant le président de la République et devant,
devant
l'Assemblée.
Devant l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre est responsable de sa politique devant le Parlement. Plus exactement, devant l'Assemblée nationale. Est-ce que le président de la République a le même traitement ?
Non.
Le Premier ministre, ils peuvent subir une motion de censure.
Voilà, c'est ce que... Voilà, merci. Donc, la relation...
On parle de théorie.
Oui,
c'est vrai.
Ça, c'est la possibilité d'une motion de censure. effectivement, le Premier ministre est différent et du gouvernement et du président de la République, en ce sens qu'il est responsable de la politique qu'il est chargé de conduire, de définir et de conduire devant l'Assemblée nationale. Hein, c'est la motion de censure. Comment ça se passe, une motion de censure ?
Il faut que ce soit présenté par au moins 60 députés.
Oui.
Et il faut que ce soit voté à la majorité.
Oui, tout à fait. À la majorité, tout à fait. Alors, il faut une soixantaine de députés qui signent une motion de censure. Donc, en gros, un groupe politique ou un groupe de groupes politiques, rarement des initiatives séparées de parlementaires. Mais ça, c'est possible en droit. Hein. Ce serait possible. C'est pas comme ça que ça se passe, mais bon. Donc, qui signent une motion de censure, c'est-à-dire un texte qui s'oppose à la politique du gouvernement. Et donc... C'est logique. Si cette motion de censure est majoritaire, qu'est-ce qui se passe ?
Le gouvernement tombe.
Tout à fait. Le gouvernement tombe. L'ensemble du gouvernement tombe. Si la motion de censure n'est pas acceptée...
Il reste.
On a le rapport de force politique à l'époque, et c'est tout.
J'ai une question par rapport à ça. S'il y a une motion de censure votée, le gouvernement tombe. Est-ce que le président de la République peut renommer le même Premier ministre juridiquement ?
Il peut parce que, d'une part, c'est la notion politique de majorité. La majorité, le président, lui, il est... Donc, on va revenir. Hein. Mais si on prend le parallélisme des formes, le président, lui, est responsable devant qui ?
La nation.
Le peuple.
Parce qu'il est élu.
Donc, une fois... tous les 5 ans ou 7 ans. 5 ans maintenant. Hein. Entre ces deux bornes-là, il est irresponsable juridiquement et politiquement. Le président de la République française est irresponsable politiquement pendant la durée de son mandat. Nul ne peut le mettre en cause, y compris judiciairement.
On peut destituer un président, parce que j'en ai entendu parler qu'on pouvait destituer
un président. Il n'y a qu'un motif.
Alors, est-ce qu'on peut destituer un président de la République française ?
S'il a fait des erreurs.
Non, s'il est malade, en cas de maladie.
Non, attendez, ça c'est intéressant. La réponse est oui.
Oui. Hein?
La réponse est oui.
À quel moment ?
Mais après, il y a des procédures, comme vous dites. Bon, regardons, quelles sont ces procédures ?
Déjà, il y a la convocation du Congrès, peut-être. Non ?
La haute trahison.
C'est
la haute cour de justice. Voilà.
Il existe dans la République française une juridiction d'exception.
Voilà, qui est la haute cour de justice.
Qui, d'une certaine façon, elle n'est pas liée à ce troisième pouvoir, qui est la haute cour de justice. Qui est constitué de parlementaires dûment désignés et qui est chargé d'instruire le procès de ministre en exercice. Ça a été le cas. Rappelez-vous l'affaire du sang contaminé. La Haute Cour de justice s'est réunie pour juger des ministres. Hein. Et dans des cas très particuliers, qui sont des cas de forfaiture ou de maladie, c'est-à-dire d'empêchement. Hein.
D'empêchement. C'est quoi une forfaiture ?
Il faut que ce soit jugé comme tel par la Haute Cour.
Et c'est quoi ?
C'est très subjectif, je veux dire ça comme ça. Il y a, sous la Ve République, il n'y a jamais eu.
Il a fait un forfait, il a fait, c'est ce que vous voulez dire.
Oui.
Le terme exact du mot.
Forfaiture. Ouais. Forfaiture, c'est un concept qui n'est pas défini nulle part. Hein. C'est une trahison, par exemple, une trahison en période de guerre. C'est ça, oui, c'est ça. Par exemple, une trahison, mais dûment constatée, c'est pas « Ah, je pense qu'il a trahi ». Non, c'est des preuves concrètes, précises, accumulées, qui font que là, manifestement, il y a motif de forfaiture, c'est-à-dire motif de destitution. Mais le mot « forfaiture » est utilisé dans le langage politique, on voit très bien pourquoi, mais juridiquement, il n'est pas fondé, cette utilisation n'est pas fondée. Hein. Il y a donc, il faut faire très attention, il y a une banalisation de ce genre de mots qui ont de graves conséquences, hein, mais qui sont, à mon avis, utilisés un peu souvent, à mon avis, à tort et à travers. Hein. Il faut faire très attention. Parce que, il faut bien voir, le président de la République est irresponsable politiquement, sauf devant le peuple. Il faut donc trouver une faute, entre guillemets, d'une gravité telle qu'elle dépasse complètement ce qu'on pourrait lui reprocher par ailleurs en cas normal s'il n'était pas ou s'il était responsable devant le Parlement, hein, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'accusation de forfaiture, elle est possible, hein, on balaye l'ensemble des possibilités, mais elle est très très grave parce qu'elle est très très difficile à manifester.
Est-ce qu'il y aurait la possibilité de destituer un président si on estime qu'il est sénile, par exemple, atteint d'une maladie?
Tout tourne autour. On en avait parlé de ça à une époque
avec Mitterrand.
Avec François Mitterrand. Hein. Mais l'opposition à l'époque avait effectivement fait monter en pression cette idée que le président pourrait être. On pourrait constater l'empêchement du président pour cause de maladie. Hein. Bon. On peut essayer de faire ça, mais c'est une procédure qui revient toujours devant la haute cour et qui là doit être prouvée à la suite d'expertises médicales. Donc quand on sait le temps que ça demande, la responsabilité que prennent un ou deux ou trois experts en la matière, ça c'est les limites de l'exercice de la démocratie, hein. C'est-à-dire que la difficulté, le poids de la charge de la preuve, pour appeler ça par son nom, est telle que ça dissuade d'engager la procédure. C'est pas forcément un mal non plus. Hein, ça, c'est à l'appréciation et des uns et des autres. Vas-y.
Le Premier ministre, parce qu'on l'a vu par rapport sur le cas de François Mitterrand, où il y avait un président de gauche et un Premier ministre de droite.
Oui.
Donc il est nommé par qui?
Alors, merci de poser la question. Quelles sont les prérogatives du président de la République? Celle de nommer le Premier ministre. Il nomme le Premier ministre, il fait ce qu'il veut.
Le Premier ministre ?
Non, je reprends. La prérogative du président de la République, on peut jouer, hein. Moi je suis joueur aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Le président de la République, il a comme compétence notamment celle de nommer le Premier ministre. À lui d'estimer celui ou celle, au moment où il va prendre sa décision politique de nomination, qui va correspondre le plus à la majorité de l'Assemblée nationale, à la majorité du Congrès, c'est-à-dire qu'il ne va pas risquer d'être, en tant que Premier ministre, censuré le moment venu. En droit, il nomme qui il veut. En fait, c'est-à-dire en politique, il désigne celui qui lui paraît être le plus apte ou bien à continuer de faire sa politique, ou bien à être en de telles difficultés qu'il reprenne au Parlement la majorité contre le Premier ministre qu'il aura désigné. On aurait pu penser qu'en période de cohabitation, ce cas de figure-là était possible. C'est-à-dire quand il y a une opposition politique entre l'une des deux têtes de l'exécutif, le président ou le Premier ministre. Rappelez-vous qu'en 1978, c'est loin peut-être, mais c'est la première fois qu'en France, on a parlé d'une possible cohabitation entre, d'un côté, le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et 78, après le gros succès de la gauche au municipal de 77, tout le monde se disait, ça y est, les législatives, la gauche va gagner. Et donc, on se prépare dans nos têtes à avoir un président comme vous avez dit, et un Premier ministre à l'inverse. Tout le monde avait commencé à phosphorer là-dessus. Banque de peau, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard, en sens inverse. Puis, de nouveau, en sens inverse. Voilà. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'en 78, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce système qui va pondre une cohabitation avec deux têtes de l'exécutif opposé, après trois cohabitations possibles? À une époque, on s'est dit, bon, c'est pas si dramatique que ça. Les institutions, le bloc que tout ça représente tient le coup par rapport à des secousses politiques terribles. Donc, finalement, elles ne sont pas si mal. Ça, c'est pas mon analyse personnelle. Mais en tout cas, c'est ce que l'histoire tente à démontrer sur l'existence de la Constitution depuis son adoption en...
58.
Et puis... Alors, une constitution, on en arrive peut-être là, il faut qu'on avance un peu. Oui, peut-être un mot simplement d'enjeu complète sur le gouvernement, parce que quelqu'un a parlé du pouvoir, enfin des règlements tout à l'heure. Hein.
Les décrets.
Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que le règlement? Le règlement, c'est le règlement. Après ça, c'est quoi?
C'est les codes de procédure. Les codes?
Non.
Non, c'est pas ça.
Il est joueur. C'est quoi les codes? Que c'est qu'un code?
Un code, c'est l'union des textes à la fois de loi, de décret et de règlement.
Alors, dans un code, il y a la partie législative et la partie réglementaire.
Voilà.
Donc on a bien, tout à fait, vous avez raison, on a bien les deux types, les deux grands types de textes qui régissent notre fonctionnement quotidien. La loi, j'en reviens pas, hein, c'est du domaine du législatif. La loi est définie par la Constitution. C'est l'article 34 qui dit la loi fixe deux points et hop, une série de compétences, de domaines dans lesquels la loi peut intervenir. Et puis on a, dans un article un peu plus loin, qui est l'article 37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Donc par décret.
Mais tout ce qui n'est pas...
C'est quoi donc alors ce qui est du domaine de la loi et ce qui est du domaine
alors,
du décret?
C'est tout ce qui n'est pas...
Oui, mais si on leur dit c'est tout ce qui n'est pas du domaine législatif,
ouais.
On va pas. Non, hein, on va pas. On va essayer d'être précis. Alors, les lois fixent les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales. Hein, je vous passe la suite. La nationalité, l'État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités. La détermination des crimes et des délits et les peines qui leur sont applicables. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impôts.
Non.
Des contributions.
Pourquoi? Alors la Constitution dit des impositions. L'impôt, c'est symbolique de l'Ancien Régime. Le roi levait des impôts. Et la Révolution a substitué à ce mot l'idée de contribution.
C'est les contribuables, on dit les contribuables.
Absolument, on dit toujours tout à fait. Hein, voilà, donc voilà. Donc l'assiette, le taux, etc. La loi fixe également. Alors déjà, quand dans la Constitution, on dit la loi fixe les règles concernant deux points, on cite un certain nombre de choses. Et on dit après, la loi fixe également. Les juges vont analyser pourquoi, ils vont en déduire des règles, il existe plusieurs catégorie dans l'article de la Constitution. Ils vont déclarer qu'il existe des lois, lorsqu'elles traitent de ces sujets, qui sont plus importantes que celles qui vont suivre. Il y a donc, dans nos textes, dans ce qu'on va appeler le bloc de constitutionnalité, hein, qui est une donnée juridique qui désigne l'ordre dans lequel vont arriver les différents textes, matière pour les juges à clarifier l'importance qu'ils vont accorder à tel ou tel délit selon qu'il contreviendra à telle ou telle disposition légale et juridique pour eux, inclus ou définie dans la Constitution.
Moi, maintenant, j'ai un souci, c'est qu'il y a des lois qui étaient votées, qui étaient mises en application. Je prends par rapport au code pénal, vous avez des lois sur le code pénal, ou vous avez aussi des décrets ministériels qui contredisent ces lois-là.
Oui,
alors,
tout à fait.
Qui va être... Le juge, lui, va prendre quoi en considération? Les décrets ou les lois?
La règle absolue du juge, c'est la loi. C'est le bloc de constitutionnalité.
Donc, tout décret peut être remis en cause?
J'ai un décret avec un décret d'application et une loi qui contredit le décret d'application.
Oui.
Qui est en cause? Nous, en tant que personne de la nation, qu'est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on va suivre la loi ou le décret?
Excellente question. Mais je reviens à ce que vous disiez. Quand une loi n'a pas de décret d'application, elle n'est pas applicable. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que toutes les lois se terminent par la formule habituelle, ou des articles de loi, ou à la fin, des décrets d'application viendront préciser des décrets de ceci, des décrets de cela. Donc, en fait, pourquoi ça? Parce que la loi, elle dispose pour intérêt général. Et après, c'est là qu'on va voir. Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, mais il n'est pas complètement faux. Je vais y revenir. la loi dispose pour l'intérêt général, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on a à faire des principes si on ne trouve pas de déclinaison, c'est-à-dire d'application de ces principes ? Ministère par ministère, le gouvernement a la possibilité, et même c'est le but de sa charge, d'établir des textes qui auront valeur d'application des lois, des décrets, des arrêtés ou des circulaires. Le pouvoir réglementaire, il a trois types de textes. Des décrets, des arrêtés ou des circulaires. Bien entendu, ils n'ont pas du tout la même valeur selon qu'ils sont un décret, un arrêté, un décret.
Oui. Les ordonnances, elles sont...
Alors, on va y venir. Cataclope, ça court. Hein. Les ordonnances sont définies par la Constitution et sont précisément le cumul des deux mécanismes juridiques. Mais, à un moment donné, on a vu que le Parlement, il avait des compétences. Il pouvait intervenir dans un certain nombre de domaines. Hein. Bon. Et que lorsqu'il a décidé d'une loi, pour être appliquée, il faut des décrets. C'est-à-dire qu'il faut que les ministres, ministère après ministère, déclinent l'application dans leur domaine de la loi en question. Donc c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, l'un des ministères qui édicte un texte d'application d'une loi générale peut se trouver, dans des cas très particuliers, en opposition. Il existe un recours judiciaire possible sur ce niveau.
Le tribunal administratif. Le seul souci, c'est que...
Attendez, on ne va pas tout faire à la fois parce qu'on va... Retenez votre question. Mais je reviens à celle-ci parce qu'elle est intéressante. Je n'ai pas parlé d'ordonnance là-dedans. J'ai parlé de loi et de décret. Hein ? L'ordonnance, c'est le mécanisme suivant, exceptionnel, mais on verra des exemples pour ça, qui consiste en la chose suivante. Le gouvernement se dit, en accord avec le président, sur un certain nombre de sujets, il faut faire vite. Or, si on suit la procédure parlementaire, une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, avec retour à l'Assemblée nationale, et éventuellement une deuxième lecture au Sénat, et un retour à l'Assemblée nationale, ça s'appelle la navette, il y a trois lectures. Deuxième procédure pour aller plus vite, le gouvernement déclare l'urgence, il y a donc une seule lecture à chaque fois. Ou bien, il dit, commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'un groupe composé à la représentation proportionnelle de l'Assemblée et du Sénat se réunit en groupe mixte, hein, comité paritaire, et ils sont chargés, eux, de proposer une loi qui ne passe qu'une fois devant l'Assemblée pour ratification. D'accord ? Mais on n'est pas encore dans l'ordonnance. L'ordonnance, il faut faire vite, il y a un paquet de dispositions à prendre, et donc le gouvernement va demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de se substituer à elle. Pour diriger le pays par ordonnance. Il va y avoir une loi d'habilitation, l'Assemblée nationale va dire d'accord, pour une période de tant de temps, et sur tel sujet, nous sommes d'accord pour ne plus avoir rien à dire, c'est vous qui décidez pour nous. Le gouvernement va procéder par des décrets qui auront valeur de loi, ça s'appelle des ordonnances. Hein. Et une fois que le train d'ordonnance, c'est souvent comme ça qu'on dit, parce qu'il y en a plusieurs, sont prises, le retour de cet ensemble de textes devant l'Assemblée pour ratification. De façon à ce que le texte réglementaire, même habilité à être pris par l'Assemblée nationale, ait valeur de loi à la fin, en étant ratifié par l'Assemblée nationale. D'accord ? Ça, c'est le mécanisme des ordonnances. Alors, il faut être très clair, hein. Il y a des exemples très concrets qui ont été de décisions prises par ordonnance. C'est le train des ordonnances sociales. Les PAIO, les missions locales et tout cet ensemble de choses ont été créées par ordonnance. L'ordonnance de mars 1982, prise par le gouvernement Mauroy, pas habilitée par le Parlement à le faire et qui ont été ratifiées, je crois, c'est en juin.
Nationalisation aussi par ordonnance, non ?
Non, les nationalisations, c'était impossible. Les nationalisations, ça a été un débat très, 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 très long. Il doit y avoir ça d'archives.
Et la retraite à 60 ans, c'est toujours valable l'ordonnance ? Il n'y a pas eu de loi encore.
Je crois que de toute façon, c'est plus ça, parce que ça sera 70 ans d'ici peu de temps.
Donc, je veux dire, l'ordonnance est toujours valable ?
Oui, bien sûr. Oui.
Et il n'y a rien eu d'autre depuis ?
Non, il n'y a rien eu d'autre depuis.
Une ordonnance, ça ?
Oui, ça a été à un moment donné, mais une ordonnance. Le mot ordonnance, il est valable 2 mois, 3 mois sur un sujet précis.
Après, c'est une ratification.
Après, c'est une ratification, donc c'est une loi. Donc, hein, le mot ordonnance, c'est un mot provisoire, en quelque sorte. Hein. C'est un dispositif très précis, à un moment donné, qui est très fort, hein, politiquement. Très fort. Mais il est habilité par une loi, et il est ratifié par une loi. Donc, c'est une loi. Hein, d'accord. Il n'y a pas de... précisément pour pas qu'il y ait de différence entre les textes après.
Une petite question dans la constitutionnalité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et
c'est possible.
Un rôle bien particulier que je ne comprends pas, je me demande à quoi il sert finalement. Bah, c'est le Sénat.
Alors, ça, il faut poser la question au général de Gaulle, qu'il pensait aussi.
Et qui, pourquoi on ne fait pas sauter le Sénat? À quoi il sert? À rien au final. Non mais mis à part,
d'anciens
députés qui vont.
Allons. Je vois pas du tout à qui vous pensez. Donc. Plus sérieusement, on est dans un système. On est dans un système d'équilibre. Hein, et un système d'équilibre, il est bicaméral, deux chambres. Le mode d'élection, parce qu'on n'a pas parlé de ça, je m'en excuse, on va revenir là-dessus. Le mode d'élection de l'Assemblée nationale, c'est... Enfin, le thème de mon intervention...
C'est suffrage universel pour l'un, et l'autre, c'est des grands électeurs. Ils ne peuvent intervenir ou toucher à la tête de l'exécutif, et l'exécutif ne peut pas les atteindre non plus.
Tout à fait.
Alors, je ne vois pas trop l'intérêt de cette neutralité.
Oui, j'ai bien compris, mais alors que... Vous êtes représentatif d'une partie importante de la population, mais qui n'est pas majoritaire.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si elle était majoritaire, on aurait supprimé en 1969 le Sénat.
Oui.
Il faisait partie du référendum lancé par De Gaulle, qui savait qu'il serait battu parce qu'il avait envie de démissionner. Hein. Donc l'affaire, elle est claire, après 68. Et la façon dont ces événements se sont déroulés, dont la suite se sont déroulés, le général De Gaulle a organisé un référendum sur deux points. Ce qu'il appelait la régionalisation, qui s'est illustrée après comme la décentralisation, et la suppression du Sénat, la réforme du Sénat. Il a été balayé. Chaque fois. Jospin a essayé aussi. Hein.
Oui, je sais s'il a essayé dans le dossier.
À chaque fois qu'un responsable de l'exécutif a proposé de supprimer le Sénat, c'est lui qui est parti. C'est pas le Sénat. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est important d'essayer de comprendre ce que c'est. Outre le fait que c'est l'histoire institutionnelle du pays, hein, le bicaméralisme. Là, l'Assemblée nationale, donc j'en reviens au mode d'élection, l'Assemblée nationale, c'est donc les 577 députés qui sont élus
au
suffrage universel, direct dans une circonscription. Les sénateurs sont élus comment ?
À la proportionnelle ?
Alors,
à la proportionnelle des grands électeurs.
Alors, déjà, le collège électoral, on va procéder comme ça. Le collège électoral des sénateurs, ce sont des représentants des élus. Hein, des représentants des élus. Le système de représentation, de renouvellement du Sénat, sur ce modèle-là, est fait par tiers. Alors, la durée du mandat du Sénat antérieur, c'était 9 ans. Maintenant, c'est 6. Mais comme c'est un multiple, ça ne change pas la règle du renouvellement, bien sûr. Donc, ils étaient renouvelés par tiers, là, ils sont par moitié, sur des groupes de départements homogènes. Il y a trois groupes de départements. Il y a trois façons d'élire un député en France. Enfin, un sénateur en France. Trois. Il y a la proportionnelle. Il y a les scrutins de liste, et il y a dans un certain nombre de cas le scrutin à peu près identique au député. Sauf que le collège électoral, c'est toujours des grands élus. Comment est-ce qu'on définit pour une ville ou un département, plus exactement, puisque l'expression se fait au département, c'est à la proportionnelle des habitants des communes qui constituent le département. Par exemple, on va avoir, par exemple ici, je vais peut-être me tromper, mais je vais vous décrire un système. Je peux me gourer de vie, etc. Évry, rappelons Évry. Évry, il y a tout le conseil municipal, plus des représentants des citoyens. C'est pour ça que je dis représentants des élus. Hein, plus des représentants des citoyens par tranche de tant d'habitants. Le cran du dessous, on va avoir tout le conseil municipal, mais plus de représentants de citoyens.
C'est qui ces représentants des citoyens ?
Des gens qui sont désignés par les forces politiques, donc par les élus.
Okay. Hein.
On va redescendre d'un cran et on va avoir les adjoints et quelques conseillers. Le cran du dessus, on n'aura que les adjoints, et le camp du son n'aura que les maires. D'accord ? Selon l'importance de la ville en nombre d'habitants. Alors, c'est bien certain que dans l'Eure, par exemple, où je suis souvent, il y a des communes de... Il y a le maire, deux adjoints et 4 ou 5 conseillers. Donc là, on voit bien la différence entre les petits villages et puis la ville chef-lieu qui est Évreux. Hein. Ici, il faudra aller loin, puisqu'on recule toujours la limite d'urbanisation, hein, il faudra aller loin dans le sud de l'Essonne pour trouver l'application de ce type de... Mais ça existe toujours. Hein. Là, il y a 900 et quelques communes dans l'Essonne, donc on a nécessairement la possibilité. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que... Alors le Sénat, sur cette représentation-là, est dit représenter les collectivités territoriales. Le Sénat est le représentant, au moins c'est ainsi que ça se dit, comme le représentant des collectivités territoriales, alors que l'Assemblée nationale est le représentant des citoyens, par le mode d'élection direct. Eh oui. Et donc, le bicaméralisme, l'existence des deux chambres, se fait sur cette notion d'équilibre entre la représentation citoyenne et la représentant des collectivités territoriales.
Et pourquoi est-ce que tu dis alors qu'à chaque fois l'exécutif qui a voulu le virer, il se casse les dents? Quelle explication tu as?
Bah, mon explication, c'est que les collectivités territoriales souhaitent maintenir leur représentation. C'est-à-dire que...
Ça fait majoritaire. Hein,
oui.
Si, oui, bien sûr. Là, actuellement, si la droite décidait de supprimer le Sénat, elle sera presque en capacité de le faire.
Elle, oui. Ah. Tout à fait. Tout à fait. Et quelque chose me dit qu'elle ne le fera pas.
Ah non, mais ça...
Cela dit, hein, c'est une modification de la Constitution. La modification de la Constitution, je vous rappelle, c'est le Congrès, et le Congrès a la majorité des deux tiers. Hein. Il faut l'avoir, cette majorité-là.
Ou alors c'est un référendum.
Ou un référendum.
Ou un référendum. Et un référendum, c'est la totale majorité après.
Alors.
Quand De Gaulle avait proposé, moi je me souviens, c'était le premier vote à l'époque, on a tous compris régionalisation, l'histoire du Sénat.
Bien sûr,
on n'a pas parlé.
Non, non.
Bah, moi je me souviens qu'on pensait que c'était oui ou non à De Gaulle.
Oui, par ailleurs, en fait, ça a été ça dans la pratique.
Ça, c'est l'aspect. J'allais dire critiquable. Je ne sais pas si je peux m'autoriser à le dire.
Oui, si
je peux. Le référendum, c'est quoi? C'est répondre à une question par oui ou par non. C'est défini comme ça par l'article de la Constitution qui en traite. Hein. Donc, répondre à une question par oui ou par non, l'enjeu, c'est toujours comment je pose la question. Hein? Et comment je pose la question, et qu'est-ce que je dois mettre en place pour expliquer le contenu de la question que je pose. Est-ce qu'on ferme à 8 heures le soir tel ou tel truc? Oui ou non, c'est pas très compliqué. Le référendum sur Maastricht, ça l'était déjà un peu plus compliqué. Sur le traité constitutionnel, bonjour les dégâts. Hein. Donc, le système référendaire existe dans la Constitution. Maintenant, tout le monde commence de plus en plus à se dire qu'est-ce que c'est que cet outil, quoi. Et dès l'origine, en plus, il n'a été utilisé qu'à la manière plébiscitaire, pour ou contre moi. Hein, parce que c'est clair que ça n'a pas aidé à une pratique éclairée et citoyenne du dit référendum.
Connaître que le texte.
C'était complexe.
Par rapport aux ordonnances, là, je me souviens d'un épisode, tu vas me dire si je me souviens bien, je crois que c'est sous la cohabitation Chirac-Mitterrand, où Mitterrand refuse de signer les ordonnances. Donc, explique-nous le rôle du président par rapport aux ordonnances.
Bah, le président, il reste celui, parce que ça j'ai oublié de le dire, excusez-moi, quand l'Assemblée nationale adopte une loi, hein, l'Assemblée nationale a adopté, après tout le circuit, etc., la loi n'est pas encore applicable, il faut que le président de la République, garant des institutions, appose sa signature pour qu'ensuite elle soit publiée au journal officiel et que les ministères commencent à décliner en texte réglementaire. Donc, le président retient son stylo, hein. Le président n'a plus d'encre dans son stylo, c'était ce qui se disait à l'époque. Ça avait un rôle de dire, mais je ne veux pas, je vais me faire prier parce que ce texte, en l'occurrence une ordonnance à l'époque, mais ça aurait pu être sur n'importe quoi, c'est pas tellement le fait que c'est une ordonnance. ordonnances qui sont en jeu. C'est le fait que ce texte contient des éléments avec lesquels je ne suis pas d'accord. Moi, président de la République. Et donc, je ne signe pas. Et là, on s'est dit, mais là, c'est la crise politique, parce que la Constitution ne prévoit rien en la matière. Hein, c'est la crise. Crise institutionnelle. Sauf que, comme tout le monde sait, qu'une crise institutionnelle vaut beaucoup plus en négatif qu'en positif, c'est une opinion, elle a été partagée à cette époque, chacun a fait quoi ? A négocié. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous signiez ? Eh bien, pour que je signe, il faudrait que... Et c'est parti. D'ailleurs, il y a eu à cette époque une dissertation d'André Dumas sur le sujet qui était assez intéressante. Alors, il décryptait pas le fin mot de l'histoire, parce que ça, c'est les historiens d'ici quelques années qui nous le diront. Mais enfin, sur l'état de tension qui existait dans les rapports entre les deux hommes, qui étaient quand même président et premier ministre, c'est-à-dire les deux têtes de l'exécutif du pays. Hein. Donc là, il y a eu... oui, ça a négocié sévère.
Mais donc,
il n'y a pas d'issue s'il n'y a pas de négociation.
Il
n'y
a pas, parce que si tu veux, là, si jamais je me souviens bien, là, le truc qui concernait les privatisations, et donc finalement, ils étaient passés par la loi pour le faire et pas par les ordonnances.
Ah, c'est de celle-là. Je pensais que tu parlais de celle de 82.
Non.
De 82. Excuse-moi.
6 en 80.
Oui, d'accord. Oui, d'accord.
Et donc, pourquoi est-ce qu'il a signé? La loi, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé les ordonnances ? Et comment, juridiquement, il a justifié ça ? C'est ça que je voudrais savoir.
Et encore une fois...
J'arrive à comprendre politiquement. Il énonce un désaccord. Mmh. Mais à un moment donné, lui, en disant non, bah, il va quand même à l'encontre de la nouvelle légitimité du pays. Tu vois ? Donc, comment il s'érige en contre ?
Tout à fait.
Et constitutionnellement...
La seule possibilité qu'il y ait, c'est de refaire une loi, c'est de repasser par la loi, pas par une ordonnance.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, ne m'obligez pas à violer la Constitution, faites votre travail correctement, il n'y a pas urgence. Et si effectivement il y a une loi, c'est beaucoup plus. Hein, l'ordonnance, c'est l'aspect réglementaire, on a vu, hein, même avec la validation, mais ça reste, pendant le temps où c'est pris, un dispositif réglementaire. C'est une chose, il peut bloquer. Une loi, là, c'est vraiment la crise politique. Personne n'y a intérêt, Mitterrand était de cette compréhension-là, hein, en tout cas dans sa tête. Et donc, il a obligé à passer par la loi. On a gagné du temps ou perdu, selon la... Mais c'était ça, le jeu. Hein. Signer une ordonnance, il pouvait s'y opposer. Refuser de signer une loi, c'est vachement plus compliqué.
Et si ça arrive ?
À ma connaissance, non. Ben, si vous voulez, quand on parle des institutions, il y a la réflexion froide sur le mécanisme qui peut se mettre en route, et puis l'histoire de la pratique de ces institutions. Hein. Il y a de super bouquins à la documentation française sur des experts en droit constitutionnel qui font ça. Dire, bon, voilà les textes tels qu'ils nous sont livrés, hein, d'accord ? Et puis voilà la pratique. Et il y a sur la Constitution, il y a chaque article avec la déclinaison des différentes applications et des problèmes. C'est passionnant à lire. Parce qu'on voit que, certes, il y a le texte, la règle, et puis le vécu de cette règle. Comment on l'a fait vivre, hein. Et là, il y a effectivement tous ces exemples-là, hein, avec les dates, les interventions, etc. C'est passionnant à lire, mais bon, je comprends que ça puisse nous faire passionner.
Comment le titre ?
La Constitution, à la documentation française.
Bah, la Constitution.
Ouais, ouais, ouais.
Gérard, juste, non pas une question, mais une réflexion. Il y a eu trois fois une cohabitation, soit avec un président de gauche et une assemblée de droite, soit avec un président de droite et une assemblée de gauche. À chaque fois, dans les deux cas, enfin droite-gauche, et Chirac et Mitterrand ont suivi la légitimité qui émanait du vote à l'Assemblée. C'est-à-dire que à chaque fois, Mitterrand a désigné Chirac qui était le représentant principal du plus grand parti élu, et Chirac a fait pareil avec Jospin. En faisant ça, est-ce que ces présidents ont signifié que dans notre Constitution, contrairement à ce qu'on raconte, il y a une priorité, enfin, je ne sais pas comment on dit, du législatif par rapport à l'exécutif.
Bien sûr.
Là, c'est ça qu'ils ont dit.
Bien sûr, parce que c'est toujours ce système-là. Hein. Si le Premier ministre qui définit et conduit la politique du gouvernement, c'est ce que dit la Constitution, et il doit faire, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie des choses qui se font, c'est quand il met en place son gouvernement, peu de jours après, il fait une déclaration de politique générale. Une déclaration de politique générale, il y a débat ou il n'y a pas débat. S'il n'y a pas débat, on dit c'est mal barré. Hein. Bon, donc il y a débat. Alors les débats, c'est un temps de parole accordé à chaque groupe. C'est pas. Bon. Mais enfin, il y a débat. Il y a débat, il y a vote. Si le président de la République choisit un Premier ministre, c'est ce que je disais tout à l'heure, choisit un Premier ministre qui ne correspond pas à la nouvelle majorité politique du pays, c'est-à-dire à la majorité qui se retrouve à l'Assemblée nationale, c'est clair que la déclaration de politique générale, c'est la motion de censure.
Oui, mais ça ne risque plus d'exister maintenant, puisque les votes du président et de l'Assemblée se font pratiquement en même temps. Donc il n'y aura plus de cohabitation.
Oui, c'est-à-dire que c'est. Je voulais en
revenir
à ça.
Les élections, vous voulez dire.
C'est par rapport aux élections, puisqu'on a inversé le calendrier, et que c'est le président qui est élu en premier, et après l'Assemblée, c'est vrai que les gens envoient. Ce que vous voulez dire, c'est que les citoyens envoient à l'Assemblée la majorité politique pour permettre au président de
se gouverner. De la politique
c'est pour ça que vous
pouvez voter contre ce qu'ils avaient voté. Mais il y avait un contrôle qui pouvait se faire. Actuellement, c'est plus possible puisque les votes se font.
Et surtout qu'il y a l'inversion du calendrier et le raccourcissement de 7 à 5 ans. C'est-à-dire que là, on a la présidentielle et les législatives, mais à peu de temps d'écart. Donc,
la question que je me pose quand même, c'est qu'on n'arrête pas de dire en permanence que cette constitution n'est pas démocratique parce qu'elle met tous les pouvoirs aux mains du président. Juridiquement, non. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée, toutes les assemblées qui passent sont des assemblées godillots par rapport au président, et pourquoi elles, y compris lorsque c'est le parti majoritaire, pourquoi il n'utilise pas sa force pour lui imposer des choses comme les choses elles se font aux États-Unis par exemple entre le président et le Parlement. Ça que je comprends pas.
Oui, ben, y a un petit personnage politique, petit par la taille mais pas forcément par la pensée, qui a fourni un jour une phrase qui définit parfaitement bien le fonctionnement de la Ve République. Vous avez politiquement raison, vous avez juridiquement raison parce que vous êtes politiquement majoritaire. C'est exactement ça. La loi, c'est une des sources du droit. Et pour avoir juridiquement raison, il faut être politiquement majoritaire.
Mais disons que lorsqu'on l'est, enfin, c'est ça que je comprends pas.
Ben, quand on l'est, ben, quand le président l'est, il choisit le Premier ministre qui est cohérent avec sa majorité. Si la majorité qui arrive à l'Assemblée nationale n'est pas la même que celle que le président a incarnée quelques années avant, ben, le président a le choix entre envoyer l'un des siens au casse-pipe. Et c'est clair que c'est la raclée, ou bien de choisir dans le camp qui lui est opposé celui, alors c'est là qu'il a un choix tactique à faire, qui va le mieux représenter ou celui qui va le mieux diviser l'autre majorité.
Non, mais c'est pas ça que je dis, Gérard. La question que je pose là, c'est pas par exemple là, parce que on a vécu la même chose avec De Gaulle, avec Giscard, avec Mitterrand, avec Chirac, et là encore pire aujourd'hui. Je veux dire que les périodes de cohabitation ont démontré dans les faits trois fois que le Parlement, enfin que la représentation du Parlement était plus forte que le président. Et à chaque fois que le président a une majorité au Parlement, les partis au Parlement deviennent des godillots et suivent aveuglément et ne travaillent plus et ne pensent plus par eux-mêmes, etc. Et c'est lui qui fixe l'ordre du jour, qui décide de tout, etc. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Parce que moi, je me mets quand même... lorsqu'on est un homme politique, on est un homme de pouvoir, donc y compris lorsque je fais partie de la même majorité que le président, pourquoi est-ce que j'accepte qu'il décide de tout ? Et je renie mes pouvoirs. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Deux dates qui sont assez clés.
Bah, leur carrière.
Enfin, moi, je vois un autre élément, surtout dans le système où on est maintenant. On vient d'expliquer, l'élection présidentielle se fait dans la foulée de l'élection législative, se faisant dans la foulée de l'élection présidentielle. La plupart des élus de la majorité, ils sont redevables au président.
Donc,
absolument. Soit-il leur président, pour une majorité, un certain nombre d'entre eux, presque une majorité d'entre eux,
ils ont profité de la vague.
En fait, vous êtes en train tout de suite. Non, vous êtes en train tout de suite d'expliquer à votre façon la grosse différence et la grosse caractéristique de la Ve République hein, de la constitution de la Ve République et la grosse différence qui existe entre ces deux dates-là.
Moi, je veux savoir une chose.
Alors non, attendez. C'est quoi ça?
Le président est élu au suffrage universel.
En 58, on adopte la constitution de la Ve République. Par qui est élu le président de la République?
L'Assemblée. Non.
Suffrage universel.
Non. La Ve République, en 1958, prévoit une élection du président de la République qui n'est pas celle de la modification de la même constitution de 1962. En 1962, on décide que le président de la République sera élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que l'élection suffrage universel direct plus l'irresponsabilité politique plus l'article 16, c'est-à-dire la possibilité de se faire attribuer les pleins pouvoirs, on a concentré sur un seul individu. La totalité des pouvoirs. La possibilité de concentration de la totalité des pouvoirs. À partir de ce moment-là, on crée un autre modèle politique qui n'est plus parlementaire, qui est présidentiel. Et c'est tout le débat entre est-ce qu'on veut un régime plus présidentiel ou un régime plus parlementaire. Mais la grosse différence, elle est là. En 58, le président de la République était élu par un collège d'élus. Hein, il n'était pas élu par le peuple. Bon. Et on peut penser d'ailleurs à ce moment-là que la modification constitutionnelle introduite en 62 était déjà pensée, notamment dans la tête de Debray, quand il a conçu la constitution de la 5e, mais qu'ils n'ont pas osé le faire dès 58 parce qu'il y avait des réticences et qu'il était nécessaire de porter une preuve politique de la nécessité de ça. Oui, absolument. Et donc on a généré avec cette décision de 62 un bouleversement complet de la démocratie dans notre pays. Le problème, c'est que toutes les institutions se sont inspirées de cette réalité-là. Si on décline à l'intérieur du fonctionnement des partis politiques, si on décline à l'intérieur des syndicats, on va s'apercevoir que le débat démocratique dans chacune de ces instances a été progressivement remplacé, puis substitué par la mise en avant d'un ou d'une.
Des villes aussi, des
maires. Bien sûr. Tout se décline à partir de ce modèle-là. On parlera de la décentralisation, j'espère, un moment, où on verra très concrètement que l'Assemblée délibérante qui a son exécutif et qui a le président de son exécutif, et les sondages qui ont été faits, hein, à Gennevilliers, je me souviens, pourtant, en 82 ou 83, la personnalité première, c'était le maire, 56% de notoriété, de connaissance, hein, 56%, le dernier, celui qui venait juste après, il faisait 12, c'était le député. Cherchez pas, hein. À partir du moment où on a complètement personnalisé, il est clair qu'on peut toujours ramer avec nos petits bras sur les exigences de la démocratie, sur le fonctionnement, sur l'éducation populaire, ce qu'on est en train de faire. On a de toute façon, à un moment donné, quand il faut prendre la décision, l'hyper-personnalisation de la décision. Vous pouvez faire tout.
Mais Gérard, comment est-ce que tu expliques que par rapport au système américain, où tu as un président élu à qui on donne un pouvoir plus qu'énorme, même lorsqu'il a une majorité de son camp, ben, je veux dire, il est en négociation permanente avec elle. Enfin, je veux dire, il ne peut pas lui imposer ce que lui impose...
Sauf que le président Obama et les autres avant lui n'avaient pas le droit de dissoudre le Congrès ou le Sénat américain. Et ça, je pense que ça, c'est une arme redoutable.
Redoutable. C'est pas redoutable.
Contre la démocratie.
On peut faire des expérimentations hasardeuses. Hein.
Oui, c'est
ça. En matière d'utilisation du droit de dissolution, il faut quand même faire attention. C'est un droit redoutable. On peut mal s'en servir.
Moi, j'ai une question. Lorsque le président décide d'une décision, qui peut, décider que si cette décision est anticonstitutionnelle?
Merci du mot. Au regard, parce qu'il y a quand même, on a peu parlé des autres pouvoirs, mais au regard du fonctionnement des institutions, il y a deux structures de contrôle.
Conseil constitutionnel.
Il y a deux structures de contrôle, on va les mettre là, parce que c'est une chose à part. Il y a effectivement. Et il y a un autre conseil. Ils sont tous les deux constitutionnalisés, hein, leurs rôles sont définis par la Constitution. Il y en a un qui a un rôle. Un, c'est lui qui proclame, donc qui contrôle l'élection du président de la République, hein, et qui contrôle la constitutionnalité des lois. J'ai parlé tout à l'heure de bloc de constitutionnalité. Hein. On va en dire un mot, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a la charge de tout ça. Le bloc de constitutionnalité, c'est un ensemble historique d'empilement de textes et de règles. Le premier de ces textes-là, c'est la Déclaration des droits de 1789. Nulle loi ne peut s'opposer, ne peut être différente des principes édictés dans la Constitution de 1789.
Non, toute la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, oui, depuis, excuse-moi. Oui. Bon, vous avez compris. Le Conseil constitutionnel en est le garant. Donc, il y a la Déclaration des droits. Après, il y a...
Le préambule.
Au-dessus du préambule de la Constitution de 1946, qui lui est très important, il y a les principes qui ont été édictés au fil des textes, qui sont les principes généraux du droit. Par exemple, il y a un exemple très frappant, pour les plus anciens, ça ne nous rajeunit pas, enfin, c'est un bon exemple, c'est l'affaire dite de la cause du peuple. Raymond Marcellin, après 1968, était ministre de l'Intérieur. Et il existait, jusque dans les années 72-73, un petit journal qui s'appelait « La cause du peuple ». La cause du peuple était diffusée de façon militante par un certain Jean-Paul Sartre, qui avait pris la tête de l'association des amis de la cause du peuple, qui était l'association support du canard La cause du peuple. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Paul Sartre va déposer à la préfecture l'association, les statuts de son association. Le droit commun, c'est on dépose une association, on donne récépissé de ce dépôt, et l'association existe. Point final. Le préfet de l'époque, aux ordres de Marcellin, l'affaire était un peu ébruitée, refuse de délivrer le récépissé, et donc, problème de droit, comment ? Je viens déclarer mon association, et vous me refusez la délivrance du récépissé, c'est-à-dire qu'on change de régime, on n'est plus dans le régime de déclaration, mais on est dans le régime d'autorisation, c'est-à-dire de censure. Bordel géant, ça commence à exploser de partout, et Marcellin se croit bien avisé, bien entendu, de déposer une loi, donc un projet de loi, avec effet de changer de régime pour les associations. Dans la foulée de 68, l'Assemblée nationale valide, vote, ça arrive au Sénat.
Oui.
Non, c'est pas cette question-là qui est en jeu. L'Assemblée nationale vote, et ça arrive au Sénat. Et au Sénat, le président du Sénat à l'époque s'appelait Gaston Monnerville, qui n'était pas très gaulliste, il faut bien quand même le dire. Bon, et qu'est-ce qu'il fait ? Il saisit le Conseil constitutionnel. C'était en son pouvoir à l'époque, hein, bon. Et le Conseil constitutionnel dit quoi ? Mais on ne peut pas changer parce que la liberté d'association est arrangée au rang des principes généraux du droit, en directe ligne de la Déclaration des droits de 89. De cette date, plus personne n'a osé s'attaquer à la loi de 1901 parce qu'elle est érigée au rang des principes généraux du droit. D'accord ? Donc la Déclaration de 89, les principes généraux du droit, le préambule de la Constitution de 46...
Excuse-moi Gérard, mais je n'ai pas compris là ce que c'était que les principes généraux du droit.
Ce sont des lois dont l'usage l'usage a érigé en principe supérieur à la Constitution.
Et elles sont clairement dites ainsi.
Oui.
Donc il y a des lois en France dont on dit c'est un principe
oui,
général
tout à fait.
Comme la loi de 1901.
D'accord.
Tout à fait, comme la loi de 1901. La liberté d'association.
Et je veux dire, où est-ce qu'on les trouve là, c'est...
Bah, tu fais Google, et puis tu trouves, tu cherches les principes généraux du droit, tu vas les avoir. Hein. Hein. Et donc,
après sa préambule...
Alors, le préambule de la Constitution de 1946, qui, lui, rappelle la première série de compétences de la loi que j'ai définie tout à l'heure. Hein. Les libertés individuelles, les libertés collectives, etc., etc. C'est-à-dire tous les grands principes clés. La liberté économique, hein, on en avait parlé à l'époque des nationalisations, rappelez-vous. Et puis après, la Constitution. de 58.
Avec un préambule encore ?
Oui, mais le préambule de la Constitution de 58 est moins intéressant que celui de 46. Alors je dis pas ça parce que c'est moins intéressant, mais celui qui est retenu, c'est le préambule de 46.
Mais alors, par exemple, par rapport au droit au logement, puisqu'il est dit dans le préambule de 46, je crois, qu'il y a le droit au logement.
Ouais.
Comment est-ce qu'on peut avoir des gens à la rue avec, avec une Constitution qui stipule ça ?
Excellent. Il faut aller chercher du côté des textes réglementaires comment ce principe est décliné aujourd'hui. Et s'il existe à Paris, pas loin de chez moi d'ailleurs, le ministère, à côté de la Bourse, le ministère du droit au logement, absolument, que régulièrement, c'est un abcès de fixation, qu'il y a régulièrement les CRS avec les camions, il y a régulièrement, à l'époque c'était Boutin qui venait de temps en temps voir, qu'il y a une mobilisation, c'est parce qu'effectivement, on n'applique pas ce droit. Mais il en est pareil pour le droit au travail. Hein. Le travail est un droit constitutionnel.
Et qui peut saisir la Constitution, le Conseil constitutionnel ?
Alors, excellente question. C'est pour l'instant un groupe de 60 députés et, ou 60 sénateurs.
Et par exemple ?
Alors, plus, ça c'est l'aménagement, mais plus les présidents de chambre, le président de la République, évidemment, tout le monde.
Et est-ce qu'un Français peut saisir ?
Non. Il est obligé de le faire par son parlementaire.
Et Gérard, par rapport aux traités internationaux que oui. la France signe, est-ce que le Conseil constitutionnel doit vérifier que les textes sont conformes aux traités internationaux ?
Ah oui, le Conseil constitutionnel peut être en permanence saisi. Hein. Mais la procédure de ratification des traités internationaux fait partie de la Constitution. Il y a donc une procédure tout à fait précise avec des consultations nécessaires, etc., y compris le retour au référendum. Hein. Le recours au référendum. Et toujours pareil, c'est le président de la République qui choisit ratification. On le sait, hein, Maastricht et Lisbonne, c'est ça. On choisit la ratification par voie parlementaire ou par voie référendaire. C'est le président de la République qui choisit. Hein.
Mais donc, une fois que...
Ça vous gêne pas si je refais
Une fois qu'on signe un traité international,
oui.
Les lois votées... doivent prendre en compte les traités internationaux oui. auxquels... Et Absolument. Donc le Conseil constitutionnel a aussi à vérifier ça.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, c'est une institution certes digne, mais qui a ses propres tables de la loi, qui sont les principes généraux du droit et les traités internationaux.
Et l'ordre du Conseil d'État ?
Alors oui, pardon. Alors le Conseil d'État, c'est un truc particulier. Ça, c'est... Il y a toujours eu, même auprès du roi, ça s'appelait le Conseil du roi, il y a toujours eu, parce qu'il a deux fonctions au Conseil d'État, il y a toujours eu la fonction de conseil du monarque ou du chef d'État, c'est-à-dire le conseil juridique. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je suis autorisé à faire ça ? Ou si je veux faire ça, je fais comment ? La fonction de conseil. Et le Conseil d'État a une deuxième fonction qui est une fonction judiciaire, enfin pas judiciaire, une fonction d'appel des décisions. Exemple. On va revenir à la voie réglementaire parce que le Conseil d'État va être l'équivalent du Conseil constitutionnel, mais pour les affaires administratives. Hein. Et c'est une juridiction administrative. Elle a un pouvoir de conseil, un pouvoir juridictionnel administratif. Les décrets, les textes réglementaires. Donc, les textes réglementaires, il y a plusieurs, on a vu, hein, plusieurs catégories. Décrets. Et le décret, il a trois possibilités. D'être un décret en Conseil d'État. Le décret en Conseil d'État, il est signé par le président de la République, qui est président du Conseil d'État. Le premier président est un magistrat, etc. Mais bon, décret en Conseil d'État signé par le président de la République. Les décrets en Conseil des ministres, signés par le ministre, ou le décret simple. Signé par un ministre. Hein, d'accord ? Il est évident qu'ils n'ont pas tous le même pouvoir. Hein. Ils n'ont pas tous le même poids, je veux dire. Le décret en Conseil d'État, c'est... Le décret en Conseil des ministres, c'est autre chose. Et le décret simple, c'est un décret ministériel. Ça, c'est pour les décrets. On a vu après les arrêtés. Ils ont, eux aussi, plusieurs types d'importance. Ça peut être un arrêté du Premier ministre... Ça peut être un arrêté ministériel. Il aura le même...
Et les arrêtés préfectoraux.
Il a le même... Alors, on verra ça dans le, si on a le temps. L'arrêté préfectoral, c'est un arrêté qui est pris par le préfet qui est le préfet? C'est le représentant du gouvernement dans le département. D'accord? Donc, pour le territoire dont il a la responsabilité, un arrêté préfectoral a la même valeur qu'un décret signé par le Premier ministre, mais dans l'application de son département. Il est possible que le Premier ministre enjoigne ses préfets de prendre des arrêtés préfectoraux pour telle et telle chose. D'accord ? Le préfet, c'est le représentant du gouvernement. C'est le représentant de tous les ministres.
Et l'arrêté municipal, c'est la même chose.
L'arrêté municipal, ça sera la même chose. Alors, la décentralisation, on vient quand même mettre un petit peu un petit coin là-dedans, hein, bien sûr. C'est que pour les on est dans les structures de l'État. On va appeler les structures déconcentrées, par opposition, par différence, avec les structures décentralisées. Hein. Les deux mots ne sont pas équivalents. Hein. On reviendra dessus si vous voulez. Je continue. Les arrêtés, et puis j'ai parlé des circulaires tout à l'heure. Ça va être opposable au tiers, on dit. C'est-à-dire que c'est destiné à l'ensemble des citoyens, membres d'un ministère ou pas. Les circulaires, elles vont être valables pour les fonctionnaires du département ministériel concerné. D'accord ? Elles ne sont pas opposables au tiers.
Ah si, moi j'en ai une.
Non, vas-y, dis-moi lesquelles.
Je travaillais au préfecture de police de Paris.
Oui.
Donc on avait des circulaires au niveau ministériel pour la sécurité civile.
Oui.
Sur des.
Pour un service de l'État.
Oui, mais moi j'étais pas service de l'État.
Non, mais tu étais, en ta qualité, agent, même non titulaire, mais de l'État. Dans la protection civile.
Non, moi j'étais formateur.
Mais tu étais formateur dans quel cadre ?
Secourisme, dans la sécurité civile.
Ah ben oui, on est d'accord. C'est un service de l'État. Même si tu n'es pas fonctionnaire, tu es agent de l'État non titulaire. Pour une période donnée. Pour une... Ah oui, oui. Oui,
oui. C'est comme le maire, il n'est pas seulement l'élu du peuple municipal, il est aussi le représentant.
Allez, c'est parti pour le maire. Alors le maire. Le maire, il a trois catégories de pouvoir qui sont bien définies dans le Code des communes. Il est officier d'État civil et à ce titre, il a un supérieur, qui est le ministre de l'Intérieur, donc le préfet. Pour ses compétences précises d'état civil, là. D'accord ? Ensuite, il est l'exécutif de son assemblée. Non, d'abord, il est l'exécutif de son assemblée, et donc il bénéficie des pouvoirs liés à cet exercice-là. Et il a une troisième catégorie de pouvoirs.
L'officier de police.
Alors, officier de police, c'est dans la première. Hein. Officier de police, officier d'état civil, c'est la première. Ouais. Mais le troisième. Ça va être ce que tous les maires font dès la première réunion du conseil municipal, pardon, monsieur le maire, c'est de se faire déléguer les pouvoirs du conseil municipal.
Article L120 du Code des communes.
C'est bien de travailler avec Max. C'est exactement ça. Et puis, si vous êtes conseiller municipal, moi je l'ai été un certain temps, là, en tout cas sur plus d'un mandat, la première réunion du conseil municipal est consacrée à quoi ? Outre l'élection des adjoints, là, délégation des pouvoirs spécifiques du conseil. Alors, parfois, ça se justifie pour accélérer les procédures, notamment en matière immobilière. Mais ça ne se justifie pas sur tout. Hein ? Et on arrive à ce que le conseil municipal ne conserve qu'une seule attribution, une seule compétence, parce que celle-ci, elle lui appartient à lui spécifiquement, c'est le vote du budget. Mais c'est souvent ça. Hein ? Le maire s'arrogeant les pouvoirs qu'il a en fonction de sa capacité d'agent de l'État, enfin de représentant de l'État dans sa commune, les pouvoirs qu'il a en propre en tant que maire et qui sont importants, et les pouvoirs du conseil. D'accord ? Voilà pourquoi. Donc, chaque fois qu'un maire prend une décision, c'est un arrêté municipal ou une délibération. Un arrêté dans le cas de son pouvoir de police, etc., une délibre dans le cas où il est l'exécutif de l'Assemblée communale.
D'accord, mais à part que lui, c'est pas le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, c'est le tribunal administratif.
Oui. Sauf si la décision qu'il prend est manifestement illégale.
Oui.
Un ordre manifestement illégal est applicable jusqu'au moment où il est reconnu illégal.
Oui.
Eh oui. On ne se rend pas justice soi-même. C'est-à-dire que si on a la conviction que manifestement, cet ordre, cette décision est illégale, elle est applicable avec tout ce que ça, avec tout ce que ça comporte.
D'accord.
Ah oui,
c'est ça. Donc,
quelqu'un d'extérieur, mais qui soit habilité à le faire. Hein. D'accord. Et donc souvent, c'est les juridictions administratives. Qu'est-ce que c'est qu'une juridiction administrative ? C'est une juridiction qui règle les rapports entre fonctionnaires et entre les citoyens et l'État, et la fonction publique, de façon générale. Bousquet de Bordeaux ? C'est le genre de situation qui nous amène à réfléchir.
Mais alors, le devoir de désobéir
Alors, je peux vous le dire, moi je suis fonctionnaire, donc je sais ce que c'est que le devoir de désobéissance. Il n'est pas philosophique. Il s'applique sous trois conditions cumulatives. C'est pas l'une ou l'autre.
Le
pouvoir de désobéissance. Tout fonctionnaire a même le devoir civique de désobéissance sous trois conditions cumulables. Que l'ordre soit manifestement illégal.
Que l'ordre soit illégal.
Manifestement illégal.
Manifestement illégal. Oui, mais si par exemple je teste.
Je voulais dire. Attends. J'ai été donc, comme il l'a rappelé tout à l'heure, 15 ans secrétaire général d'un syndicat. On a essayé plusieurs fois de faire valoir ce truc-là. C'est impossible.
Ordre manifestement
illégal. Sauf en période de guerre.
Alors,
il y a l'ordre manifestement illégal. Il y a le trouble manifeste à l'ordre public que ça pourrait engager. À l'ordre public, c'est le truc qui est. C'est un bon moyen juridique. Et il était divisé. Et le troisième, c'est une menace à l'intégrité des personnes, une chose comme ça. Enfin, je pourrais te le retrouver, je pourrais vous le faire passer par. Il faut que ce soit cumulatif. C'est pas l'un ou l'autre.
Mais très simple.
Un exemple type. Ça nous est ramené tout le temps par la jurisprudence.
Qui autrefois refusait et maintenant ne refuse plus de conduire un charter.
C'est pas pareil, c'est pas des fonctionnaires, ça. Je parle des fonctionnaires.
Là. Oui, là, vous parlez.
Hein, je parle des fonctionnaires, ça. Ça, c'est le droit de retrait. C'est autre chose en droit. Mais l'exemple type du devoir de. Enfin, c'est un prof agrégé qui avait choisi en tant que prof agrégé d'enseigner en secondaire, en collège, ce qui était déjà pas mal, qui avait des relations extrêmement compliquées avec son principal, lequel principal l'affectait au balayage de la cour. Le gars a dit, moi, c'est pas dans mon statut, c'est pas ma mission, je désobéis. Il a été condamné. Non pas parce qu'il ne faisait pas son boulot, mais parce qu'il s'était opposé à un manifestement illégal. Pourquoi ? Parce que dans la fonction publique, il y a une clause qui est importante, c'est qu'un personnel affecté auprès d'un fonctionnaire d'autorité lui doit obéissance. Après, il faut que l'agent qui se sent floué attaque la décision prise par son supérieur pour dire « Écoutez, là, je ne suis pas fait pour ça, etc. » Bon. Dans ce cas-là précis, la sanction a été levée.
Se soumettre à ce qu'on lui a commandé au préalable.
Oui.
Sinon, c'est légal.
Oui.
Absolument.
Absolument. Le devoir d'obéissance dans la fonction publique, il est clair. Il y a un pouvoir de désobéissance, et parfois un devoir, notamment en période de guerre, mais en temps normal, rien ne justifie qu'on n'obéisse pas à son supérieur hiérarchique. Voilà.
Et si, par exemple, lors d'une CQR...
Ça va faire plaisir à tous les élus, ça.
Ça rappelle aussi ce qui s'est passé au moment de la guerre. Excusez-moi, au moment de la guerre, quand les personnes qui étaient... C'était les militaires qui s'étaient mis en congé d'armistice, puisque... Ils ne pouvaient plus faire partie de l'armée, ont été obligés de rendre leurs armes. Et après, on leur a demandé, ça n'a pas été en même temps, de rendre également leurs vêtements militaires et autres
effets. Oui, mais l'armée, c'est un autre cas.
Particulier. Non, c'est pas pareil. Ne dites surtout pas un militaire qui est fonctionnaire. Alors, il va exploser. Non, c'est pas ça. L'armée, c'est un corps très particulier, avec une gestion très particulière à l'intérieur de la fonction publique.
Hein. Il y a une juridiction particulière aussi.
Ah ben oui, il y a les tribunaux militaires.
Et vous avez les prisons militaires.
Oui, bien sûr. Qui d'ailleurs est un vrai scandale, mais au passage, c'est la réalité, il faut quand même le dire.
Oui, c'est la même chose, c'est au niveau de la circulaire. Par exemple, quand une circulaire, quand un fonctionnaire ne respecte pas une circulaire.
Oui. Alors ?
Qu'est-ce qui se passe?
Quelle est votre question?
Qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Il doit être sanctionné.
Mais pourquoi?
Exemple.
Non, mais je touille, mais c'est important. Parce que c'est, ça aussi, c'est une réponse à la question que vous posez. C'est qui me dit, enfin, qui établit qu'il n'a pas rempli, qu'il n'a pas respecté la circulaire?
Sans supérieur.
Non, exemple, je prends par exemple.
Exemple.
Exemple, je prends pour le Premier ministre qui établit une circulaire de sur l'ensemble de tous les ambassades sur le ministère des Affaires étrangères au niveau de certificat de nationalité française.
Oui, c'est-à-dire ?
Alors, par contre, il faut savoir que pour avoir une pièce d'identité, il faut présenter un certificat de nationalité française.
Oui.
La seule chose,
c'est façon qui se met en
voilà. Il y a une circulaire qui a été émise qui disait que la certificat de nationalité devait être présenté seulement que pour la première présentation pour la carte d'identité. À la suite, il n'y avait plus besoin de présenter cette circulaire.
Ceux qui ont perdu leur carte d'identité,
que soit perdu leur carte d'identité et que la personne à l'ambassade ou en préfecture trouvait que était basanée, demandait ce certificat de nationalité. Alors que dans les circulaires, est demandé de ne plus fournir seulement que sur la première.
Alors qu'est-ce qui se passe là?
Là, ça a posé des problèmes.
Attendez. On va être simple. Vous me posez une question.
Non,
il y a une mécanique derrière tout ça.
Je suis.
Qu'est-ce qui se passe?
Moi, en tant que Français, on me demande un certificat de nationalité.
Oui.
Donc, soit je vais le faire,
oui.
Je perds du temps, ou soit je vais présenter le texte de la circulaire et elle me dit, moi, j'ai pas ces circulaires-là.
Bah, et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Je vais chercher mon certificat de nationalité.
Ah ben bah non, mais d'accord. Donc vous acceptez complètement que le fonctionnaire en question continue à faire ce qu'il fait.
On va voir le
tribunal administratif.
Oui, c'est le tribunal administratif. C'est le cas.
Le médiateur.
Alors ça peut être aussi. Alors oui, t'as introduit, t'as raison. Non, mais ça, c'est un différent entre un citoyen et l'administration. C'est typiquement le cas qui doit être traité en Conseil d'État. Alors, il y aura le Conseil d'État, c'est la structure, je veux dire, les juridictions rattachées au Conseil d'État. Ça sera donc le tribunal administratif. Il faut savoir que la juridiction administrative, elle a différents niveaux. Elle a les juridictions administratives, c'est un tribunal administratif par département. Il y a une chambre administrative d'appel, il y a une structure d'appel après une condamnation. Et ensuite, il y a le Conseil d'État, c'est-à-dire celui qui rend des décisions d'appel. Donc, il y a tous ces niveaux-là. Donc, le niveau de première instance, le tribunal administratif, la structure d'appel, qui est la chambre administrative d'appel, puis le Conseil d'État. Alors que le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de... il est en tant que conseil, on juge du fond tout de suite. Alors que dans les juridictions administratives, il y a les trois niveaux.
Et le médiateur, là, donc?
Alors, le médiateur... C'est pas dans l'esprit des institutions de la République française, le médiateur. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. C'est un truc qui vient, l'ombudsman, qui vient de Suède. Avec un rôle qui consiste à dire, en fait, tiens, il reste une place, c'est exactement la sienne. Hein, le médiateur. Non, mais c'est vrai. Le médiateur, il a pour fonction. C'est un énorme service, hein. C'est comme un ministre. Hein. Les services du médiateur, c'est un truc immense. Avec le, il a grossi au fil des âges, comme nous tous, pardon. Et donc, le médiateur, il a comme charge de régler tous les conflits qui ne se sont pas réglés par les structures habituelles. C'est-à-dire, en gros, il va médiater, hein, pas médiatiser, il va faire le lien, il va essayer de retrouver les solutions à partir d'un espèce de méandre juridictionnel, administratif et judiciaire, compliqué, dans lesquels les gens se sont explosés, se sont coupés les ailes. Bref, en général, c'est que des cas compliqués. Mais son boulot, ça va être de proposer des décisions acceptables par tous. Donc vraiment faire de la médiation à un niveau où il y a quand même eu de graves conséquences, hein, d'ordre juridictionnel.
Mais ils ont là, pour prendre l'exemple, parce que en fait, moi je pensais que le médiateur, il intervenait aussi pour éviter d'aller au tribunal. Prenons l'exemple de Soufiane, puisqu'il dit qu'il y a une circulaire qui existe, mais qu'il a en face de lui une fonctionnaire qui ne la connaît pas, est-ce que justement... Si cette circulaire existe, est-ce que ce n'est pas le rôle du médiateur de dire aux fonctionnaires « cette circulaire existe, appliquez-la »
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a la circulaire, comme je vous disais aussi, il y a la loi, puisque le code pénal dit et très explicite par rapport au, à la nationalité française, c'est qu'à 21 ans, tu ne peux pas renoncer à ta nationalité française. Quand une personne vient de demander une carte d'identité qui est française et qu'on lui demande un certificat de nationalité, c'est pas possible. Il ne peut pas perdre sa loi.
Oui, mais ça, si tu veux. Il y a. Attends. Quoi le problème ? C'est pas pour rien qu'on a hortefeux à volonté comme ministre. Hein. Donc, soyons. Non, mais soyons clairs. Là, c'est la limite où le pouvoir réglementaire peut parfaitement générer des dispositions telles que pour une catégorie de la population, la loi ne soit pas applicable.
Oui, mais là, il n'y a plus d'égalité.
Attends, patiente, va pas catacrobe. Soit. Évidemment qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement. C'est comme ça que ça se dit. Et souvent, les recours devant les juridictions administratives commencent comme ça. Recours pour abus de pouvoir. Recours pour inégalité de traitement. Hein ? C'est-à-dire que dans les principes généraux du droit et ceux de la République, il y a un principe clé qui est l'égalité de traitement des citoyens sur tout le territoire. Ça, ça fait partie des principes généraux du droit. On ne... Donc, quand on parle de décentralisation, toujours avoir présent à l'esprit que la décentralisation, dans son application, alors qu'au départ, c'était conçu pour rapprocher la décision politique du citoyen directement concerné, revient à créer sur le territoire une inégalité de traitement. Et je prends toujours l'exemple suivant. Je préfère habiter dans les Hauts-de-Seine qu'en Ardèche. C'est beau, l'Ardèche. Mais c'est pauvre. Mais non, mais attendez. Les Hauts-de-Seine, c'est un département dont l'équivalent du produit intérieur brut est équivalent à celui de la Grèce. Il vaut mieux habiter dans les Hauts-de-Seine que d'habiter ailleurs. Donc, on est avec la décentralisation dans quelque chose qui, s'il n'est pas apporté de véritable correctif au regard de ces principes généraux de 89, l'égalité, c'est là où on peut retrouver la devise qu'on citait tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, on va nous dire que quand on la rappelle, on est ringard, on est des doux rêveurs, etc. Mais à un moment donné, c'est ça qui définit la République française. Et donc, c'est ça qui doit être respecté. Là-dessus, moi, je suis relativement clair. Et on peut surtout le décliner à partir de ces deux principes que j'ai indiqués, c'est-à-dire l'égalité de traitement et l'égalité d'accès. On peut tout balayer. Ce qui fait que je me sens, que nous nous sentons entre nous dans un rapport de fraternité, c'est qu'on est en train de parler du même sujet en essayant de se comprendre. Mais si on n'a pas, quand on va sortir de la possibilité de savoir qu'entre nous, il existe le principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire le fait que, quoi qu'il nous arrive, on aura un traitement égal. Pas équitable. Hein.
Ouais.
Quand on rend un jugement, on ne juge pas en équité. Ah, moi je pense que celui-là, il a plus raison que celui-là. Non, on juge en droit. Il a fait ci, il a fait ça, dans ce cas-là, voilà ce qui se passe. Bon. Donc, si on n'a pas le sentiment qu'on est traité d'une façon égale, tout ce qu'on s'est raconté, ça ne sert à rien. Non mais. Et donc, c'est là où intervient un élément qu'on peut traiter, quel que soit l'endroit où on est, c'est le problème de la citoyenneté. Hein ? Être citoyen, c'est quoi ? C'est forcément exercer son pouvoir ici. Pouvoir de vote. Bon, mais il n'y a pas que là qu'on vote. Hein. Est-ce qu'on sait très bien tous les endroits où on vote ?
Le président.
Ah, vas-y. Là, je vais effacer parce que ça vaut le coup d'écrire. Ok, on est d'accord ? On peut.
Bon, allez. Est-ce qu'on
va quand même laisser un peu.
Les référendums, les maires. Les cantons, les conseils.
Alors.
L'élection présidentielle.
Alors, présidentielle.
Législative. Conseil municipal. Municipal.
Pas conseil.
Régional.
Et le cheval.
Les cantonales.
Les cantonales. Européenne.
Oui, des européennes aussi.
Et aussi, on vote, c'est.
Prud'homme.
Les
prud'hommes.
Oui.
Quand il y a un référendum. Oui. Et les prud'hommes aussi.
Avec un seul
délégué de personnel.
Voilà.
Ah, alors les DP, oui.
Ça compte les conseillers de classe.
Oui, ça compte. Oui, bien sûr.
Par relève.
Les MJC, les associations.
Les associations,
les caisses de retraite, on a des votes.
Alors, l'ensemble des institutions qui sont pas, qui sont là, mais qui sont des institutions professionnelles. Hein, les caisses de retraite, la Sécu, oui,
exact. La Sécu aussi.
Il y a aussi un certain nombre.
Bon, elles n'ont pas toutes le même, le même rôle et le même impact.
Non,
et pourtant, vous les avez tous cités quand j'ai dit tiens, élection, on vote pourquoi. Donc vous avez inclus ou incorporé pour vous l'idée qu'on votait tout le temps. Enfin, on votait dans ces différentes circonstances-là. Mm-hmm.
Ouais.
Alors, si on prend la première série qui est là, est-ce que vous avez le sentiment de voter, quand vous avez voté à tous ces échelons-là, pour toutes les structures, pour désigner les représentants de toutes les structures dans lesquelles nous vivons?
Non.
Absolument pas.
Non. Ah, c'est un vote, le
référendum. D'accord, voter de commune, et je ne pense pas que c'est les meilleurs.
Je vais mettre intercom. Hein. On est d'accord, c'est ceux-là, c'est pas les téléphones. Hein.
Oui.
Ouais.
Syndicat aussi intercommunal.
Et le référendum.
Structure intercommunale. Oui, le référendum, vous pouvez mettre
la position là.
D'accord.
Eh bien,
le Sénat. Le Sénat.
Le Sénat.
Ah non, bah non,
les échappes.
Il y a les élus là.
Ah non.
Le judiciaire.
Pas nous, c'est vrai.
Ah bon?
Bah, le conseil de la magistrature.
Oui, alors vous l'élisez vous.
Ah non, c'est pour ça qu'on ne les élit pas.
Ah oui. Aux États-Unis, on élit les juges.
Oui,
non, non, mais puisqu'on faisait des comparaisons. On élit les shérifs aussi. Bon, reprenons parce que là, on touche quand même les choses d'assez près, donc d'assez complet. Ça, on va dire que c'est les élections qui correspondent à l'exercice de nos droits politiques. Sous-entendu, on peut exercer nos droits politiques, il se peut qu'on n'ait plus le droit de les exercer, les droits politiques.
Comme d'assaut. Comme d'assaut, actuellement.
Oui, oui, comme d'assaut, actuellement.
C'est
oui.
Fini aussi.
Tout à fait. Bah oui, c'est-à-dire que les droits politiques, ils sont exercés jusqu'au moment où on en est privé, par décision de justice. On peut être privé d'exercer ses droits civiques et ses droits politiques. Civique, ce serait plutôt ça, et politique, l'exercice d'un mandat. Donc la loi, enfin la, oui, la loi peut prévoir que le pouvoir judiciaire sanctionne, et parmi ces sanctions, il peut exister la privation de ce type de droit. On est d'accord. C'est pour ça que l'exercice permanent du droit de contrôle des citoyens sur les listes électorales est un droit. Issus que
l'on s'en sert.
Quand on s'en sert pas. C'est quand on s'en sert pas que ça s'use. Hein. D'accord. Alors là, ça
on
correspond au CEL. L'élection municipale, ça correspond à quel niveau?
Maire. Tout citoyen peut se pointer pour aller vérifier les listes.
Toujours, bien sûr.
Il arrive et dit je veux voir les listes.
Absolument.
C'est le maire.
À la préfecture.
À la préfecture. Ah oui, d'accord.
Oui, puisqu'on est enregistré.
Donc, l'élection municipale correspond à la commune, ça. C'est celle qui est la plus connue.
Le maire.
Non, pas le maire.
Les conseillers municipaux.
Non, pas les conseillers municipaux. Le conseil municipal.
Hein?
Attention, c'est important parce que... Non, mais dans le processus qui correspond à la phase du vote du citoyen... C'est bien le conseil municipal qu'on constitue. Hein, ça, on vote pour la liste. Donc on vote pour les X sièges qui correspondent à la ville. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eux se réunissent et élisent le maire et les adjoints. Sur proposition du maire. Ou bien, est-ce que on connaît le nombre d'adjoints comme ça, dans une commune ?
Oui, en fonction du nombre d'habitants.
Non, on connaît la possibilité du nombre d'adjoints
par ville. C'est le conseil municipal,
qui détermine son nombre d'adjoints.
Mais son rôle.
Oui, en fonction, oui.
Et le cabinet du maire, c'est tout à fait à part.
Le cabinet du maire, ce sont des gens... Alors,
c'est une nomination.
C'est une nomination. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'élection. Ce sont soit des employés extérieurs à la commune, soit des salariés membres du personnel communal que l'élu, que le maire, choisi pour constituer son cabinet. Mais les lois de décentralisation sont venues corriger un truc qui était exponentiel à une époque où les cabinets étaient pléthoriques. Là, il y a maintenant... Alors, ça se joue pour nom, ça se joue au volume de rémunération. Hein, la rémunération du cabinet, c'est... Ça, c'est un pouvoir réglementaire, pour le coup. Hein. C'est un règlement, donc il peut changer, aisément. Bon, municipalité, on a vu... Bon. Cantonal, c'est...
Départemental,
c'est le conseil général.
Non, mais c'est ceux qui élisent le conseil général.
L'élection cantonale, les citoyens élisent dans leur canton un conseiller général, un cantonnier.
Lui, il ne dit pas ça. Hein.
À qui ?
Un conseiller général.
Non, mais je peux lui dire, comme je le connais, et qu'il n'y a aucun problème. Non, non. Il ne faut pas... Écoutez, tombons pas dans le piège. D'accord ?
Donc, parce que dans sa devenue de titre 8, ça n'a quand même pas la même signification.
Tout à fait. Tout à fait. C'est bien, c'est une des explications qui font que justement, on ne s'est jamais réussi à s'attaquer au Sénat. Cette raison-là aussi.
Hein. D'accord.
Bon, donc le canton, l'élection cantonale, canton par canton, on élit un conseiller général. Au niveau du département, ça constitue une majorité qui va, comme le conseil municipal, élire son exécutif, lequel va élire son président et son bureau. Élection régionale, ça c'est déjà un peu plus compliqué.
C'est la région.
C'est une liste, hein, je crois. Mmh.
C'est des scrutins. Ouais, c'est la liste.
Par liste.
Ouais. La proportionnelle.
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Eh, hey, Manivou, on vote dans quelques mois, quand même. Donc là, révision à toute vitesse, là.
Conseil
régional.
C'est le conseil régional, on l'élit comment ?
Par liste.
Par liste. La proportionnelle.
Scrutin à deux tours.
Scrutin à deux tours. Alors ? Bon. D'accord. Alors, reprenons calmement. L'élection régionale. L'élection régionale est une élection récente. Auparavant, c'était des conseillers généraux qui étaient en même temps conseillers régionaux, mais chaque conseil général envoyait X des siens au conseil régional. Par exemple, lorsque le maire d'Évry s'appelait Jacques Guyard, qu'il était conseiller général, il était aussi, par délégation du conseil général, conseiller régional. D'accord ? Bon, la loi de décentralisation est venu préciser que la région, comme le département, comme la commune, étaient des assemblées de plein droit, qui faisaient donc l'objet d'une élection au suffrage universel, et dans le cas des régionales, au suffrage universel à la proportionnelle, c'est-à-dire des listes. Vous allez voter en mars prochain pour des listes de candidats. Et l'application de la proportionnelle servira au dépouillement pour savoir combien pour chacune des listes, en fonction des voix obtenues, combien sont élus ou pas élus. Selon pour les militants syndicaux, ça va leur faire plaisir, selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, c'est-à-dire cette règle qui avantage les grosses listes. L'autre façon d'appliquer les résultats à la proportionnelle, c'est à la plus fort reste qui avantage les petites listes, les petits résultats.
Oui, j'ai une petite question.
On voit ça, c'est le dépouillement à la Sécu, au Prud'homal et aux élections de délégués du personnel.
Oui.
Par onglet ?
Oui aussi. Bah oui, parce que c'est une liste. Tous les scrutins par liste, exactement. Exact.
Moi, j'ai une question d'actualité. Quand une des parents.
C'est le mardi et le mercredi.
Une question, par exemple, je prends pour le Grand Paris qui est d'actualité,
oui.
Où vous avez le conseil régional,
oui.
Qui est opposé,
oui.
Au conseil à l'exécutif.
À l'exécutif national, au président de la République pour faire court.
Oui. Voilà. Donc, on sait très bien que les deux sont élus par le peuple.
Oui. Oui, c'est intéressant, ça.
D'accord.
Et oui, le président de la République est élu au suffrage universel national. Le président de région est élu au suffrage universel à la proportionnelle.
Régional.
Dans sa région.
Oui, mais si, le, par exemple, le Grand Paris, c'est la région.
Oui.
C'est pas national.
D'accord. Mais il y a. Et je pense que dans les prochains mois, vous allez voir comment ça. La prochaine semaine, vous allez voir monter en régime justement ce débat-là. Lui, il dit moi, je suis président des Français. Il est d'intérêt national que la capitale. Non, mais ça va être ça. Attendez-vous à savoir, comme disait Geneviève Tabouille. Là, vous aurez un président qui va exciper, qui va prendre en main l'argument, c'est-à-dire je suis l'élu des Français. La ville capitale, la région capitale, le département capital, trois trucs, sont des expressions d'un segment de la population. Moi, je représente la légitimité nationale, et à ce titre-là, comme il s'agit de la ville capitale, région capitale de la capitale, je pense que... D'ailleurs, j'ai nommé un ministre pour ça. Le Premier ministre était très emmerdé quand il a vu la tournure que prenaient les événements. Il a essayé de tempérer le ministre désigné pour le Grand Paris. Lequel ministre du Grand Paris a dit quoi ? De quoi ? On rogne mon pouvoir ? Eh bien, je le maintiens. Et le président de la République lui a donné raison. De quoi s'agissait-il ? Parce que ça, c'est important. Il disait, pour les travaux d'intérêt généraux sur le Grand Paris, il est nécessaire de s'approprier des terrains pour mener à bien l'opération. Donc, la propriété foncière, c'est le dû de l'élu. Donc du président de région et du maire de Paris, qui est en même temps président du Conseil général de Paris. Conseil de Paris. Le seul moyen de les déposséder de ce droit, c'est quoi ?
C'est le président.
Eh bien, c'est la loi. Non, c'est la loi.
Oui, mais la loi de la décentralisation.
Mais non, mais... Reprenons les hiérarchies. Une loi ne peut être changée que par une loi. Et pas dans la totalité de son application. On propose sur cette opération, ça pourrait être une ordonnance, hein, c'est à peu près dans l'esprit, c'est un peu le même système. Sur cette opération, en vue de la fonction générale, là, la loi dispose que pour mener à bien les opérations qui sont inscrites dans tel truc, on peut l'écrire comme ça, hein, eh bien, les terrains nécessaires à la réalisation des objectifs sont propriété de l'État. Point.
Mais Gérard, on peut être pour ou contre les décisions, mais en termes purement de républicain, c'est logique. C'est logique que moi je me place, au niveau républicain, c'est normal que la volonté de l'exécutif national prime sur la volonté d'un exécutif régional.
Non mais
parce que sinon, si tu veux, on arrête d'être une nation et on fait,
Alors,
à quoi sert de nommer un parlement régional en sachant que les décisions prises par l'État concernent que la région et pas forcément...
Non, mais moi, ça me chagrine aussi. C'est pour ça. Attention aux arguments. Il y a tout à fait la possibilité pour une opération précise à un moment donné et avec des attendus très, très simples de dire « là, il y a intérêt général ». Vous, moi, je représente l'intérêt général. Vous, vous représentez des intérêts particuliers. Et en bon républicain, on ne peut pas s'opposer à la prévalence de l'intérêt général sur l'intérêt particulier.
Le micro tout autour de Paris, c'est général. Ça ne concerne seulement que les cas particuliers.
Non, mais ça fait, c'est comme ça pour les Jeux Olympiques. Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques, mais c'est exactement
ça. Ça aurait été comme ça, tout à fait.
Non, mais s'il y avait les Jeux Olympiques, là, c'était l'intérêt général. Mais là, il n'y a pas.
C'est pareil.
Alors, 3 minutes sur le débat. Est-ce que c'est logique que le développement sauvage de la région Île-de-France, qui nous amène au constat aujourd'hui suivant ? Les emplois sont à l'ouest, les logements sont à l'est. Il y a entre 3 et 4 millions de personnes le matin qui font ce sens-là et le soir, l'autre sens.
L'autre sens aussi.
Oui. Bon, je vois qu'il y a... Non, mais à un moment donné, la structuration de la région ou du Grand Paris, enfin, on voit bien à quoi ça correspond, passe à un moment donné par des décisions d'ordre national qui imposent un schéma.
Oui, mais je le comprends.
Toute la question, parce que ça va devenir un enjeu politique, donc machin contre machin. Il faut qu'il y en ait un qui perde et un autre qui gagne. Mais il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen d'arriver, probablement d'ailleurs, à un résultat qui ne sera pas très différent. C'est la négociation. Non, ben non, c'est pas ce qu'ils font. Ils vont passer par la loi, c'est-à-dire en force. Pas moi qui l'ai dit. Enfin, c'est pas faux.
En dehors de ça, ça, enfin bon, moi je ne suis pas complètement partisan de la négociation parce que c'est bien, mais il peut y avoir des consensus mous, ce genre de choses. Il y a quand même depuis 25 ans cet échelon régional qui a été introduit, qui a de plus en plus de pouvoir et qui d'une certaine façon disloque l'État un peu nation.
Oui, 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 oui.
Bon, moi je m'en ai eu chance soir à la télé qui crie au retour de Napoléon, mais. Moi, je comprends bien avec les coups politiques et tout ça. Il y a quand même bien dans la structure des différentes élections et de l'État comme il est aujourd'hui dans son découpage administratif. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Je veux dire de
l'égalité.
D'égalité.
Oui, oui, oui.
Les départements, parce que là, le problème de.
Mais bien sûr.
De création de sous-ensembles avec des régions riches, des régions pauvres, et puis avec des baronnies locales qui font un peu ce qu'elles veulent.
Le grand lion.
Je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que si le résultat auquel on arrive en décrivant ça. C'est celui que vous dites, je pense que vous avez raison, il y a un vrai problème du concept même, à la fois de décentralisation, en le rapprochement de la décision du citoyen concerné, mais on ne peut pas s'y opposer, mais s'il n'y a pas dans le même temps un système de péréquation nationale qui rééquilibre les disparités inévitables entre territoires, on n'est plus bon, quoi.
Ouais, mais c'est pas le cas.
Le principe de solidarité n'est pas accepté, mais déjà.
Prenez le médecin. Vous avez en pleine Auvergne, vous avez un médecin pour.
Excusez-moi, juste par rapport à. Il est 10h05. Peut-être que. Est-ce que, Gérard, tu as des choses précises à nous dire, toi, par rapport à ton exposé pour finir? Et est-ce qu'il y a des questions que vous voulez lui poser?
Exact, exact. Tout à fait. Bon, alors on efface, parce que c'est vrai.
Est-ce qu'on peut faire
des questions? On a.
Moi, je suis
ici. On va revenir au point judiciaire.
Non, mais si jamais ça vous intéresse, je suis sûr qu'il est prêt à revenir. Alors.
Alors, le pouvoir judiciaire. Bon, le pouvoir judiciaire, on peut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on a affaire à une instance qui va examiner les différents nés de l'application des lois par les citoyens ou par les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, on a un dispositif de loi que nul n'est censé ignorer et que tout le monde doit respecter. À partir du moment où il y a des différends dans le respect du dispositif législatif, il y a forcément une instance, et l'intérêt de la séparation des pouvoirs, c'est qu'ils soient séparés des deux autres, qui va rendre une décision qui doit aller dans le sens de l'intérêt général. Il peut profiter à celui qui attaque comme à celui qui est attaqué. Ça, c'est le résultat de leur travail. Mais le principe, c'est au nom du peuple français, sur ce sujet, je vous condamne à. C'est soit celui qui a attaqué, soit celui qui a été attaqué. D'accord ? Alors, comment fonctionne le judiciaire en fonction de quoi ? Ça nous amène à parler d'une chose qui s'appelle la source du droit. Hein ? C'est quoi les sources du droit ?
Le code des procédures.
Non, ça, le code, c'est l'endroit où.
Les coutumes.
Alors, on va noter tout ça. Tu dis coutume.
La jurisprudence.
La jurisprudence.
Il y a le code civil, le code pénal.
Les règlements.
Les codes, je sais pas.
Non, on va pas citer les règlements dans cette affaire-là. En tout cas, pas tout de suite. Ah oui, les lois. Alors, il manque quelque chose là-dedans, mais qu'on ne sait pas trop, mais qui sert au juge pour apprécier les choses. Disons que ce qui est issu de la tradition de l'Ancien Régime, c'est ça. La coutume. Et il existe un droit coutumier. Hein, notamment dans le truc très compliqué des baux ruraux, c'est-à-dire à la campagne, où la question des propriétés, les passages sur les terres, les droits de passage, C'est un gros bouquin, un code, le code rural. C'est passionnant, mais enfin, il faut aimer quand même. Hein. Bon, donc ça, je sais que ça existe, que c'est très particulier et que ça concerne une partie du territoire. Mais que ça, c'est pratiquement, on sait à quoi on s'adresse, c'est identifié. Après, il y a... D'abord, il y a la loi. La loi dit que, papapla, etc. Donc ça, c'est une source du droit pour le juge. Après, il y a la nécessité qu'il a, dans laquelle il est, de rendre une décision par rapport à un fait. Donc il va se dire, je vais chercher dans la loi. Alors les avocats de chacune des parties vont l'aider dans son travail en lui proposant, et s'ils sont gentils et compréhensifs, en lui proposant au juge des solutions. Dans tel cas, mon client pense que, et en fonction de l'article machin, voilà, etc. La partie adverse va faire rigoureusement la même chose en disant « Non, non, cet article n'est pas applicable, c'est celui qui est applicable. » Bon. Lui, il va se retrouver, le juge, avec une discussion juridique entre plusieurs textes de droit. Il va falloir qu'il se fasse son opinion. Comment va-t-il se faire son opinion? En gros, qu'est-ce que la charge de la preuve? Qui a la charge de la preuve? C'est celui qui est condamné, ou c'est celui qui est accusé, ou celui qui accuse. Hein. Donc, en droit français, ce qui est différent des autres, de droit notable américain, c'est celui qui accuse, qui doit prouver qu'il y a faute de la part de l'autre. Hein. Sauf si on introduit le plaidé coupable, ce qui est en train de se décider, ou celui qui est accusé pourra dire « Oh oui, d'accord, je suis coupable de ça, etc. » Et reconnaissant une partie de la responsabilité, il fait gagner du temps, donc il affaiblit sa peine. Ça va être ça le truc, hein. Ça va être du marchandage. Et par rapport au système judiciaire aujourd'hui, en dehors de cette affaire-là, la charge de la preuve est à celui qui accuse, dans un débat entre eux. On appelle ça des objets juridiques. Hein. C'est-à-dire, c'est le code civil qui va définir un certain nombre de règles. Hein. Code civil, ça va être le code de la sécu, ça va être le code du commerce, ça va être le code des marchés publics, ça va être le code de l'élection, c'est-à-dire le code pénal, absolument. Hein. Donc on va avoir une série de codes qui, en fait, renferment les lois, hein, rassemblent les lois. Il y a un code de l'éducation qui a été constitué par empilement, par tri et par croisement de tous les textes qui concernent de près ou de loin l'éducation. On a maintenant un code de l'éducation, code du commerce avec la même chose, le code civil Napoléon, c'est le premier qui crée des obligations en droit. Celui qui crée de vraies règles de droit. Auparavant, on était là. Bon. Mais il va se dire donc, je vais juger quelque chose. Il rend un jugement. Et en rendant son jugement, il va expliquer, dans le débat juridique qu'on lui a proposé, il va expliquer pourquoi il arrive à cette conclusion-là. Ça va être la jurisprudence. Parce que d'autres juges vont dire, sur une affaire semblable, machin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait ça, alors donc je peux me référer, etc. Quand il y a un certain nombre d'affaires qui reprennent les mêmes éléments de jurisprudence pour arriver à un même jugement, on dit que la jurisprudence est constante. Constante sur ce sujet. C'est les avocats savent très bien, sur un sujet-là, il y a de la jurisprudence constante, où est-ce que ça, etc., où là, il n'y a pas... Ils ont jugé, on ne sait pas, etc. Et il y a une autre source pour le juge, et ça, c'est très interne au droit, qui s'appelle... J'aurais dû me noter tout à l'heure, j'avais sur la langue. Quand on écrit et qu'on disserte sur un sujet... C'est l'équivalent de la théorie. Je vous retrouverai le mot tout à l'heure. Oui. Où ce sont des auteurs de droit, des profs de droit confirmés, des grands juristes. Non, ça c'est un truc du droit canon, ça. C'est pas bien.
Je pensais que c'était un peu.
Non, la doctrine.
La doctrine. D'accord.
Alors ça, c'est un certain nombre d'écrits, de dissertations, hein, juridiques. Sur des sujets de droit, sur des problèmes de droit, où tel ou tel, à son avis, pense plutôt que. C'est tous les sujets où le droit n'a pas vraiment traité, n'a pas vraiment pris position, la loi, etc., où la jurisprudence est encore incomplète. Donc, il y a, je crois, une vingtaine ou une trentaine, hein, au total, de grands profs de droit qui vont dire des choses. Nous, on pense que. C'est donc un raisonnement comme celui que fait le juge quand il l'apprécie. Dans le débat juridique entre les avocats, qui va dire bah, « moi je pense que c'est intéressant de savoir ce que lui pense de ça ». Et quand c'est repris dans les jugements, on va s'apercevoir que progressivement, cette doctrine elle a du poids. Parce que simplement la succession, la répétition, la réutilisation d'un certain nombre de cet argument juridique, de ce raisonnement juridique, donne des jugements. D'accord ? Alors, ça c'est la première instance, vous êtes... J'espère pas condamné, que c'est l'autre qui est condamné. Alors les jugements de première instance sont rendus dans un certain nombre de disciplines pour lesquelles il n'y a pas forcément appel partout. Alors celui qu'on connaît bien, c'est le tribunal de grande instance.
Il y a le TGI, il y a le TI.
Le tribunal d'instance, alors ça c'est les petites villes, les grandes villes, mais ça c'est en matière civile. On va avoir la cour d'assises.
Et la cour d'appel.
Doucement. On est en première instance.
Le correctionnel.
Tribunal de police.
Oui, tribunal de police. Oui, si, si, tribunal de police. Oui, pour les contraventions, les trucs pas payés, etc.
Prud'homme.
Ça, c'est autre chose. Prud'homme, c'est autre chose. Le tribunal de prud'homme, c'est le tribunal tout à fait particulier, mais on peut le mettre.
Oui, mais c'est aussi en première instance.
C'est une première instance, absolument.
C'est une première instance.
C'est une juridiction qui a du plomb dans l'aile, parce qu'elle représente en fait la capacité pour le salariat et les employeurs de rendre compte des différends au sein des entreprises, dans l'application du code du travail. Et bien entendu, c'est une juridiction qui est autonome. Elle rend ses décisions qui ont force exécutoire, hein, mais selon une procédure qui est une procédure de négociation. Exposition à conciliation, et puis on s'oriente en voie de condamnation s'il y a nécessité. On peut se faire représenter par un avocat, mais on peut se faire représenter par un délégué syndical ou par une personne de son choix. Hein. Moi, j'ai plaidé au prud'homme en tant que responsable syndical. Bon. Et donc, dans cette affaire-là, bon, l'intérêt, c'est que c'est une négociation. C'est-à-dire qu'on constate des faits. À partir du moment où on a constaté des faits, on essaie de trouver une solution de compromis à l'amiable. Si on ne peut pas, eh bien, on ne peut pas. Là, à ce moment-là, on va plus loin. On peut aller en correctionnel, on peut aller au-delà. Et s'il y a possibilité d'entente, eh bien, cette entente-là, c'est un relevé de conclusion qui a valeur de jugement. Et qui oblige les parties qui l'ont passé. C'est une procédure allégée, parfois qui peut résoudre un certain nombre de problèmes, parfois qui les complique. Hein. On est arrivé à un tel niveau, mais ça, c'est une juridiction intéressante, la juridiction prud'homale. Hein. Mais elle est quand même en dehors du lot. Hein. Donc j'en reviens là. Ça, c'est la possibilité que le juge de prononcer en première instance un jugement. Maintenant, une fois que le jugement est prononcé en première instance, il y a forcément une structure d'appel où celui qui est condamné va estimer qu'il l'est injustement, ou bien que le parquet, c'est-à-dire le représentant du ministre, c'est là où là il y a des failles dans la séparation, c'est que le ministre, vous savez qu'il existe un ministre de la Justice, qu'est-ce que fait le ministre de la Justice ? Il a en charge, par rapport à ça, une direction des affaires criminelles et des grâces, donc la possibilité d'apprécier et de proposer des grâces au président de la République, d'une part, mais aussi, il a dans ses services les parquets de chacune des juridictions, chacun des tribunaux, c'est-à-dire la magistrature debout, hein, la magistrate debout et le magistrat assis. Le magistrat assis, c'est celui qui juge. Le magistrat debout, procureur, avocat général, procureur, il dépend directement de l'exécutif, c'est-à-dire du ministre de la Justice, et il donne ses instructions. Et le procureur, c'est d'ailleurs intéressant dans l'affaire Clistrim, tout de suite, de voir le rôle du procureur, du magistrat qui va développer ses conclusions du procureur. Pourquoi ? Parce que le procureur en question ambitionne tout à fait de devenir le premier président de la cour d'appel, c'est-à-dire et qui est précisément nommé par
le président.
Voilà. You have compris. Donc là, il y a les pointillés, pas surtout, mais là, il y a un petit problème. Donc, on peut faire appel. Alors, il existe des cours d'appel. Il en existe moins qu'il y a de départements et plus qu'il y a de régions. Donc il y a une carte judiciaire qui détermine l'endroit où il y a des cours d'appel. Alors qu'est-ce qui se passe ? La cour d'appel, elle n'a pas comme objectif de repérer s'il y a des fautes de jugement. Elle va juger sur le fond. C'est-à-dire qu'elle va rejuger l'affaire en deuxième instance. C'est un deuxième procès. Allons jusqu'au bout, je ne reviens pas sur les détails. Il y a condamnation, forcément, et le condamné se dit « je ne suis pas tout à fait content, s'il y a quelque chose qui ne va pas mieux ». Il y a une troisième instance qui s'appelle la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle a une particularité, c'est que sauf en matière de diffamation, elle ne va pas juger sur le fond, elle va juger sur la forme. Est-ce que la procédure a été correctement respectée ?
Sauf en matière de diffamation.
Sauf en matière de diffamation, elle peut juger au fond. Alors, son rôle, donc sauf en la matière où elle peut juger sur le fond, quand elle juge sur la forme, elle va devoir trouver des failles dans l'application des règles de droit. Failles qui se sont présentées comme ça, ou on a un peu introduit les avocats notamment dans le déroulement du procès d'appel. Vice de procédure. Alors c'est compliqué parce que comme le droit est une matière très évolutive, par exemple vous êtes aperçu qu'il y avait eu il y a pas très longtemps un procès de la scientologie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de déterminer que, à la fois des personnes physiques, monsieur machin, madame machin, et une personne morale, en l'occurrence deux, c'est-à-dire une association ou une société, se sont rendus coupables de délits en bande organisée, délits d'escroquerie en bande organisée. Ça, c'est le... Et il y a un dispositif législatif qui prévoit que lorsque une personne morale, une personne physique, mais qu'une personne morale est condamnée définitivement, c'est-à-dire jusqu'au bout de la procédure d'appel, d'accord ? Est définitivement condamnée, elle peut être dissoute. Le procès de la scientologie s'est déroulé sur ce thème-là, avec une réquisition de l'avocat général qui demandait la dissolution de la des deux organismes de scientologie, c'est-à-dire le Media Center et la boutique de vente de produits, etc. Bon. On part en vacances, tout le monde se dit « putain, ça va être bon », et qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'il existe dans la procédure législative à l'Assemblée nationale, compte tenu qu'il y a beaucoup de lois, parfois qui sont prises dans des sens comme ça, ou bien par petits bouts, la nécessité d'harmoniser et de simplifier les lois. Et que, au cours du mécanisme de simplification de la loi, on a simplement fait sauter la possibilité pour le juge de dissoudre une personne morale condamnée pour escroquerie en bande organisée. Que la loi a été adoptée en mai et que le jugement a eu lieu en juin. Horreur et putréfaction. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On va vite résoudre le problème. Hein ? Et donc, maintenant, ça y est, le Sénat... La réquisition demandant la dissolution des personnes morales n'est plus possible. Puisque pendant le temps où la loi a été modifiée, le procès avait lieu. Donc voilà. Voilà une des astuces de procédure, pour le coup, un peu compliquée.
Ce qu'on appelle un vide juridique.
Ah non, c'est pas un vide juridique, c'est une réalité juridique. Ils nous ont baisé la gueule, pour être clair. Hein. Voilà. Non, mais là, c'est pas... On peut tourner autour du pot. C'est pas un vide juridique. Il y a une loi qui a été votée pour une seule personne physique, en l'occurrence, la Scientologie. C'est quand même très fort. Alors après, il y a des méchants. Après, tout à fait. Après, il y a des méchantes langues qui vont chercher qu'à un moment donné, il y a un ministre des Finances qui avait reçu, il y avait eu des photos de prise, qui avait reçu Tom Cruise. Oui. Bon, ça n'a rien à voir.
Non.
Mais voilà, c'est-à-dire que quand je dis que le droit est évolutif et que le métier d'avocat comme celui de juge est un métier qui est un métier d'actualité, ça c'est un exemple. L'avocat des parties civiles, Maître Maurice, il est là ici. Hein. Au point, tout le monde se demande si l'avocat général, pour avoir fait une inquisition aussi forte pour demander la dissolution de l'assemblée, n'était pas un peu informé du truc, quoi. Style délit initié, quand même. Donc on en est là. Vous voyez que donc la Cour de cassation, je reviens là, excusez-moi, la Cour de cassation, elle a donc la possibilité d'aller chercher s'il n'y a pas un truc. Et lorsqu'elle trouve, qu'est-ce qu'elle fait, puisqu'elle ne peut pas juger au fond ?
Elle renvoie vers la Cour d'appel.
Elle renvoie sur une autre Cour d'appel. Hein ? On change le procès de lieu.
Quand l'état actuel des choses est sanctionné pour la scientologie.
Pour la scientologie ? Ah ben, elle ne sera pas condamnée, c'est clair. Si, les personnes physiques le sont. Oui. Mais la scientologie ne sera pas dissoute, non. C'est plus possible.
Les autorités qui voulaient. Il y a un quatrième niveau. La Cour européenne.
Attends, oui. Oui, vous avez raison. Donc on est là, non mais dans le cadre du fonctionnement de la séparation des trois pouvoirs de notre beau et cher pays. Bien. Sauf que si effectivement la Cour de cassation casse, renvoie dans une autre instance d'appel qui confirme le jugement de l'autre chambre d'appel, c'est fini là. On dit que les voies de recours sont épuisées. C'est là que peut intervenir les dissolutions de la loi, etc. Sauf que il y a effectivement un quatrième niveau d'appel qui, lui, est un peu plus compliqué et qui est très politique, avec un grand P, accordons-le. C'est la Cour... c'est les deux juridictions. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de la Haye. Hein. Et donc, dans cette affaire-là, bah, on instruit un procès et c'est parti. C'est beaucoup plus long. Mais la France se fait condamner. Hein, parfois. C'est pas... Donc, c'est effectivement... Ça devient effectivement une quatrième instance.
Mais les appels, par exemple, moi je suis condamné, ouais. Je fais appel.
Ouais.
Est-ce que l'appel
suspend ? Je suis condamné, c'est pas bien. Qui vient de le dire ?
Est-ce que ça suspend ?
Ah, c'est suspensif.
Est-ce que l'appel est suspensif ? En droit, il est suspensif. En matière.
Pécuniaire ?
En matière pécuniaire, il ne l'est pas.
Il ne l'est pas.
Il y a, en matière disciplinaire, l'appel n'est jamais suspensif. Les prud'hommes, les tribunaux internes, etc., c'est jamais suspensif parce que c'est l'application d'une mesure nécessaire, immédiate. Mais dans cette matière-là, l'appel est suspensif, oui.
Par exemple, la cour d'assises, je tue quelqu'un.
Oui. Alors, la cour d'assises, c'est intéressant parce que c'est nouveau. La cour d'assises, je l'ai mise là, mais c'est récent. Auparavant, la cour d'assises n'était pas susceptible d'appel. Le jugement était définitif en première instance. Enfin, était définitif, point. Il n'y avait pas de notion de première instance. Maintenant, il y a possibilité de faire appel.
Sur certaines conditions.
Il y a toujours, c'est toujours certaines conditions l'appel, bien entendu. Mais cette structure appelle. C'est la raison pour laquelle, comment il s'appelle ?
C'est le procès Fofana.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le procès Fofana. Tout à fait. Avec, oui, c'est ça, exactement. Mais on peut maintenant faire appel d'un jugement de cour d'assises.
Avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de procédure d'appel, mais cela dit, ce n'était pas impossible non plus, puisqu'on pouvait avoir un procès en révision.
Ouh.
Sous réserve d'avoir une preuve.
D'avoir des
Mais attention, c'est pas une procédure. C'est pas une procédure. Là, on est bien dans le domaine des procédures. Alors. Oui,
difficile,
c'est la preuve pour le capitaine Dreyfus. Mais les procès en révision.
Oui,
les procès en révision, il y en a.
Oui.
Alors, bon, l'erreur judiciaire est toujours ce dont se méfie le plus. Il ne faut jamais attaquer comme ça. Hein. L'erreur judiciaire, la justice reconnaîtra très difficilement qu'elle s'est trompée. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est les nouveautés. Il y a un élément nouveau. Témoignage, enfin, plus le temps passe, plus c'est difficile. Preuve matérielle, ça peut exister. C'est tout ça. Après, c'est un faisceau de convictions qu'il faut aller défendre devant le président de la République dans un certain nombre de corps ou la chambre de mise en accusation, donc, qui fait office de révision des procès. Là, c'est hyper compliqué. Ouais.
Vous n'avez pas été utilisé quand ils avaient commencé à mettre en place les analyses ADN, les tests ADN,
Patrick Dix, c'était un projet, il a été condamné deux fois, et il a été innocenté à la troisième fois. Il y a eu deux appels chez Patrick Dix. C'est un marathon judiciaire.
C'était pas un procès en révision.
Non, c'était un appel de la décision de la Cour d'appel. de la cour d'assises. Pardon.
D'accord, vous parliez, excusez-moi, vous pourrez en venir. La cour de la Haye, c'est du TBI dont vous parliez ?
Oui.
D'accord.
Oui. Mais on voit bien que les cas que traite le TPI de la Haye, c'est quand même c'est une cour internationale.
Oui, hein, oui,
mon chien m'a mordu, moi j'ai été mordu par le chien de ma voisine.
Non, non mais par contre, Georges Bush, non, jamais.
Je ne sais pas pour dire, dans cette MJC, c'est la deuxième fois que je vois, il y a une bande de gens qui ont un mauvais esprit.
Oui, je sais. Gérard, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.